Nous vous présentons sur cette bande magnétique un message du prophète de Dieu William Marion Branham. Ce message est intitulé « Les 70 semaines de Daniel ». Il a été prêché le 6 août 1961 et il est le troisième d'une série de trois exposés. Ce message a été prêché dans le Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Frère Branham, le prophète de Dieu vous parle. Bonjour mes amis, c'est un privilège pour moi de me retrouver de nouveau ce matin dans ce tabernacle pour poursuivre ce grand message que nous essayons de vous expliquer. Je veux parler de la 70e semaine de Daniel. Nous sommes heureux de constater combien vous êtes nombreux à vous être assemblés ici malgré cette grande chaleur. Nous regrettons de ne pas disposer de places assises en plus grand nombre, car il ne vous est pas facile de vous tenir entassés comme vous l'êtes. Ce manque de confort ne facilite pas la compréhension du message, mais nous ferons tout notre possible pour vous retenir le moins longtemps. Aujourd'hui, j'espère que vous m'excuserez si je m'attarde sur certains points, car le message de ce jour est celui qui vous permettra de bien saisir l'ensemble du sujet, de le graver dans votre esprit. Nous lui avons consacré trois études pour être bien certain de vous le faire comprendre. Évidemment, tous ceux qui sont présents dans cette salle savent que ces messages sont enregistrés sur bande magnétique et qu'ils sont destinés à être expédiés dans le monde entier. Laissez-moi dire à tous ceux qui écouteront ces bandes et que certains ne seront peut-être pas d'accord avec mon enseignement sur certains points, faites-moi connaître vos objections car je serai heureux de les connaître. Sachez que c'est avec la pensée de pouvoir édifier l'Église, toute l'Église, l'Église universelle, l'Église de Christ, que je vous apporte ces messages du fond de mon cœur, ces messages qui viennent de la parole de Dieu. Je crois réellement que nous vivons dans le dernier jour. Je désire vous enseigner dans la vérité sans vous égarer en quoi que ce soit. J'ai toujours agi ainsi. Certains peuvent dire en écoutant les bandes, « Je ne suis pas d'accord avec tel ou tel point. Il se trompe, il ne connaît pas les Écritures. » Peut-être avez-vous raison. Eh bien, voyez-vous, en ce qui me concerne, j'étudie la parole sans sauter un seul mot. Je lis ce que certains ont écrit sur le sujet et je les apprécie. Puis, en dernier ressort, je l'apporte à Dieu et je m'y tiens lorsque je puis expliquer mon message de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand je vois qu'il est parfaitement conforme à la Bible, je sais alors qu'il s'approche de la perfection. Il se peut que vous ayez tort ou raison suivant que je m'écarte d'une ligne ou vice-versa. Aussi, nous vous sommes reconnaissants de vos appréciations et tout ce qui est fait ici est entièrement pour le royaume de Dieu. J'ai de nombreux amis dans le monde entier. Je les apprécie beaucoup. Je pense que nous serons ensemble dans l'éternité. Il n'est pas dans mon cœur le dessein de les décevoir en quoi que ce soit. Au contraire, je ferai l'impossible pour pouvoir leur venir en aide. Mon désir est celui de Salomon quand il demanda à Dieu de lui donner la sagesse afin de pouvoir conduire dans la bonne voie le peuple de Dieu. C'est là ma prière sincère. J'apprécie comme il se doit tous ces associés qui m'entourent et qui sont venus pour m'aider. Voici le frère Mercier, le frère Roy Borders, le frère Neville, mon fils Billy Paul. Jen se trouve quelque part dans cette assemblée ainsi que les frères Teddy. Merci à tous. Il y a peu de temps, le frère Léo me racontait la vision, selon lui un rêve qu'il avait eu une nuit lors de notre première rencontre. Il avait vu le sommet d'une grande pyramide se dressant vers le ciel, et je prêchais à ce sommet. Et le frère Léo grimpa pour se rendre compte de ce qui se passait là-haut, et quand il y arriva, il vit une sorte de lumière argentée autour de moi. Je prêchais au peuple, il me fit signe, et regardant autour de lui, il me dit, « Comment as-tu fait pour être là ? Comment puis-je moi-même y parvenir ?» Je lui répondis, « Léo, personne ne peut monter ici. Dieu y place lui-même l'homme de son choix. Aussi, tu ne dois pas monter ici. Tu vas descendre et témoigner à tous ceux qui sont en bas de ce que tu as vu ici. Dis-leur que c'est la vérité, que c'est la vérité. » Léo descendit et il témoigna devant les gens. « Frère Léo qui est dans cette salle, de quand date cette vision ? De plusieurs années, n'est-ce pas ?»« Oui, de plusieurs années. Depuis cette époque, autant que je le sache, le frère Léo a été fidèle en apportant ce témoignage que ce ministère vient de Dieu. Je ne veux pas qu'il vienne de moi, et s'il vient de moi, il ne vaut rien, car il n'y a rien de bon dans l'homme. Voyez-vous, le ministère doit venir de Dieu. Hier après-midi, j'ai serré les mains de mon ami le frère West. Pensez que certains d'entre vous viennent de très loin pour venir ici. Il y en a qui viennent d'Alabama, d'autres comme le frère Welch Evans viennent de Tifton en Géorgie, le frère Palmer de Macon en Géorgie, la sœur Ungreen et ceux qui l'entourent viennent de Memphis dans le Tennessee. Voici une dame qui vient de la Caroline du Sud. Et tous ses amis ont roulé durant des centaines et des centaines de miles pour assister à ce service. Quand ils sont ici, pas de place d'assises pour eux, pas de local climatisé, mais ils ne disposent que d'un vieux bâtiment surchauffé où ils vont se tenir tout transpirants. Leurs enfants leur ont donné l'argent nécessaire pour venir entendre ici ce message. Cela, c'est ce qu'on appelle la fidélité. Ces gens apportent leurs dîmes. Non seulement ils viennent ici, mais ils m'apportent leurs dîmes et leurs offrandes pour les remettre à la maison du Seigneur. Essayons de faire ce qui est droit. Que Dieu bénisse un peuple aussi loyal que cela. Que la grâce de Dieu et sa miséricorde soient sur chacun de vous. Je vois ici mon ami Charlie Cox et tous ceux qui descendent du sud du Kentucky. Où que vous posiez le regard, vous voyez des gens et qui viennent de différents endroits. Ce jeune homme qui est assis ici, je ne me rappelle pas son nom, mais je l'ai rencontré à Chicago. Plusieurs viennent des écoles bibliques de Springfield, dans le Missouri. Ceux-là viennent de l'école biblique des Assemblées de Dieu. Oui, c'est très gentil. Ils sont venus de partout pour se rassembler dans cette vieille petite église. Rappelez-vous, il y a 30 ans que j'ai posé la première pierre de cette église, la pierre de l'angle. Je me tenais là-bas, dans la 7e rue, je n'étais pas encore marié, j'étais un tout jeune homme, j'eus alors une vision. Une foule innombrable venait se rassembler dans cette église, s'entasser dans ce local. Elle venait de partout. Oh, comme je me sentais heureux derrière mon pupitre. À ce moment, il me dit, « Ceci n'est pas ton tabernacle. » Et il me fit asseoir sous les cieux. Vous connaissez la suite de cette histoire. Elle est écrite sur le feuillet de la Bible, qui se trouve là, dans la pierre de l'angle. Je vous suis si reconnaissant à tous, mes amis. C'est si insignifiant de dire seulement « je vous suis reconnaissant », mais sachez que je prie pour vous tous. Je crois en vous, je crois dans vos expériences de Dieu. Je ne pense pas qu'un homme ou une femme puisse conduire durant des centaines et des centaines de miles dans l'unique but de montrer la robe ou le costume qu'il porte. Non, je ne pense pas qu'ils viennent ici simplement pour être vus. Ils viennent ici car ils désirent profondément et sincèrement le salut de leurs âmes. Ma prière est la suivante, « Ô Dieu, aide-moi afin que ma sincérité atteigne au moins la moitié de la leur pour remplir mon ministère envers eux avec tout ce qu'il y a dans mon cœur et en regardant à toi. » Le message que vous allez entendre ce matin est schématisé sur le tableau noir en face de vous pour vous en faciliter la compréhension. Ce sujet, les 70 semaines de Daniel, a fait l'objet d'une grande étude minutieuse de ma part. J'y ai consacré 2 jours entiers, 2 nuits entières. Et depuis le début de cette semaine, je me suis consacré à la recherche des mots pour exprimer la vérité. Tout doit concorder avec tous les passages de la Bible. Et si un verset est en contradiction, alors vous avez fait fausse route. Il faut que tout s'ajuste parfaitement. C'est ainsi que j'essaye de vous enseigner. Savez-vous que la plus grande critique qui m'est faite par mes frères qui entendent mes bandes dans le monde entier se réfère à la prédestination dès avant le commencement du monde? En ce qui concerne mes frères pentecôtistes, je sais que votre point de vue est le légalisme, et cela vous dépasse quelque peu, cela dérange votre doctrine. En tant que frère chrétien, voudriez-vous seulement apporter assez de considération à la chose et vous mettre à genoux devant Dieu tenant votre Bible et demander à Dieu de vous expliquer? Voudriez-vous le faire? Voudriez-vous comparer votre point de vue légaliste avec tous les passages de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour voir s'il y a toujours concordance? Prenez la semence du serpent, c'est lui le meurtrier. Beaucoup ne croient pas à cela. Si vous vouliez seulement ouvrir votre Bible à la Genèse, vous liriez que le serpent a une semence. C'est la Bible qui le dit. Je mettrai inimitié entre la semence du serpent et la semence de la femme. Donc le serpent a une semence. Et si la semence du serpent était spirituelle, alors Jésus-Christ n'était pas un homme. Ainsi la semence de la femme était spirituelle. Tous deux avaient leur propre semence, et l'inimitié demeure encore de nos jours. Le serpent avait une semence. Si vous voulez tout simplement prendre votre Bible, vous agenouiller et être vraiment révérend devant Dieu, je crois que Dieu vous le révélera. Et si vous ne comprenez pas, je me tiens à votre disposition pour vous venir en aide, soit par lettre, soit dans un entretien particulier, ou de quelque façon que ce soit. Évidemment, nous réalisons que cela ne sauvera ni ne condamnera un homme, mais permettra d'apporter la lumière sur ce sujet que nous essayons de tout notre cœur de dévoiler à tous. Tout cela n'apporte que de la lumière. Et maintenant, inclinons nos têtes pour un moment avant d'approcher l'auteur de cette parole. Combien dans cette salle ce matin ont besoin de quelque chose? Dites seulement, j'en ai besoin. Ô Dieu, aie pitié de moi, que le Seigneur vous bénisse. Pour vous qui êtes au loin, que le Seigneur vous exauce quand vous entendrez cette bande. Notre Père Céleste, nous sommes un peuple reconnaissant, bien qu'un peuple inutile, mais nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin, parce que nous y avons été conduits. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Maintenant, nous savons que c'est la vérité. Ici, dans cette réunion et au loin, partout où seront envoyées ces bandes, il y aura probablement des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau à l'écoute. Et nous savons, Père, que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit est né d'en haut. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est sur nous. Nous réalisons que ce Saint-Esprit est tout-puissant et qu'il peut faire pour nous toutes choses que nous désirons être faites. Alors, Père Céleste, nous te demanderons de remettre notre foi à cet Esprit, que ce dernier puisse être notre assurance ce matin pour la gloire du royaume de Dieu, de la réalisation de ses demandes et ses désirs, que nous puissions être guéris de nos maladies et soulagés de nos afflictions, et que nous puissions servir notre Dieu de tout notre être. Ouvre aujourd'hui nos oreilles de l'entendement. J'ai formé le projet d'apporter à ton peuple cette grande question et d'éclairer son esprit à ce sujet. J'ai tout écrit ici sur le papier, Seigneur. J'ai également dessiné sur le tableau noir tous ces schémas, mais je suis totalement insuffisant pour l'expliquer. Maintenant, nous faisons appel à toi, le grand maître qui a écrit la parole, qui l'a inspirée, qui l'a donnée au prophète Daniel. Nous te prions pour que ce matin, tu nous donnes l'inspiration, car tu as dit que ce serait dans les derniers jours que ces mystères seraient révélés. Puisses-tu ouvrir notre entendement, mets en notre cœur une foi si profonde qu'elle puisse permettre à ta parole de nous saisir, de nous illuminer et d'apporter dans nos vies les fruits de droiture que tu désireras. Que le Saint-Esprit nous assure ce matin la plénitude de notre foi en Dieu. Nous nous y attendons dans l'humilité. Nous nous abandonnons à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes si reconnaissants ce matin d'avoir de nouveau la possibilité d'ouvrir encore ces pages de la parole éternelle de Dieu. Mon désir est de vous expliquer ces mystères de Daniel. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu les sept âges de l'Église. Et à la fin du troisième chapitre, l'épouse est enlevée de terre pour la gloire. Vous désirez connaître ce qui dans l'Apocalypse ne s'applique pas à l'âge de l'Église. Sachez que nous sommes plus près de la fin que vous ne le pensez. Il y a quelques nuits de cela, ma belle-fille me réveilla pour m'apprendre qu'un de mes cousins par alliance, Andy Herman, se trouvait à l'hôpital. Il était mourant. Je suis allé le voir aussitôt, mais je ne puis lui parler, car il était sous l'effet de tranquillisants, et il dormait profondément. Je demandais à Dieu de lui conserver la vie, jusqu'au lendemain matin, quand j'irai de nouveau le visiter. C'était un brave homme, mais seulement il n'était pas chrétien. Et quand la tante Hattie me vit auprès de lui, elle me dit, « Billy, pendant les 80 ans qu'il a vécu, il n'a jamais servi le Seigneur. » Il y a quelques semaines, à la maison, il m'appela et me dit, « Hattie, sais-tu que le Christ s'est tenu devant moi il y a juste quelques minutes ?»« Non, je ne suis pas fou. Il s'est tenu ici même devant moi et il me dit quelque chose. Que t'a-t-il dit ?»« Il est plus tard que tu ne le crois. » Et deux à trois semaines plus tard, il fut frappé de paralysie et il se mourait à l'hôpital. Je dis, « Tant Hattie, honte à vous de ne pas m'avoir appelé plus tôt. j'aurais pu le préparer pour affronter l'heure qui est la sienne actuellement. Et quand je le vis le lendemain, il ne pouvait parler. Je lui demandais, « Pouvez-vous m'entendre, oncle Andy ?» Il fit un petit mouvement de la tête affirmatif. Je priais pour lui, lui demandant de confesser ses péchés devant Dieu. Je voulais le baptiser, et la tante Haïti demandait également à l'être elle-même. Puis je descendis pour voir une jeune femme qui habitait dans les environs et qui devait être envoyée à l'asile des aliénés, et le Seigneur a fait une grande chose pour elle. Puis je rentrai chez moi, et en remontant la rue, je rencontrai une sœur de couleur qui me dit, « N'êtes-vous pas le frère Branham ?»« Oui, c'est moi. Vous rappelez-vous de moi, je suis Madame Dry. » »« Oui, je le crois. Pete Dry. Oui, je me souviens de vous. » Elle nous précéda dans la chambre, et je me demandais pourquoi elle avait dit cela. L'oncle Andy se levait dans son lit. Il était assis, levant les bras comme vous et moi. Il voulait se lever et sortir. Lui et sa femme viennent d'être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai raconté tout cela, car il est plus tard que nous le pensons. Et je pense maintenant que l'étude de ces 70 semaines de Daniel nous permettra de le mieux comprendre. Beaucoup de mes frères pentecôtistes à ce sujet sont en désaccord avec moi. Ils s'attendent à quelque événement d'une grande puissance. Et s'ils écoutent de très près mon message, ils découvriront que ce si grand événement qu'ils attendent est déjà passé. Jésus est prêt pour sa venue. L'épouse est enlevée dès la fin du 3e chapitre de l'Apocalypse. Rien n'y est mentionné à ce sujet. La seule chose dont il est parlé, c'est du dernier messager de l'âge. Ensuite, il est parlé des Juifs, jusqu'à ce que l'épouse soit de nouveau mentionnée dans le 19e chapitre de l'Apocalypse. Et du 6e au 19e chapitre, il n'est question que des Juifs. C'est là que j'attends tous ces bons frères durant les sceaux. Le frère Wood, qui précédemment était témoin de Jéhovah, ainsi que toute sa famille, comprendra avec tous les autres que les 144 000 n'ont rien de commun avec les païens, les gentils. Ils sont tous des Juifs. Voyez-vous, ce n'est pas le corps mystique de Christ qui se trouve sur la terre aujourd'hui. L'épouse est ce corps mystique. Et par le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans le corps mystique. Relisons le 24e verset du 9e chapitre de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le plus saint. Sache-le donc et comprends. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés à la fin du verset 24, « Oindre le plus saint ». Aujourd'hui, nous allons commencer au verset 25. « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, la voilà, ma cité sainte, jusqu'à loin, le Messie, le Prince, il y a 7 et 62 semaines, les rues et les remparts seront reconstruits, mais en des temps troublés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, mais non pour lui-même, et le peuple du prince qui viendra détruira la cité et le sanctuaire, et sa fin se manifestera par de grandes inondations, et jusqu'à la fin de la guerre, les désolations sont prévues. » Notez bien, il s'agit là de la fin de la guerre, nous l'avons noté au tableau noir, maintenant il va se passer autre chose. « Il établira l'alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Quelle leçon ! L'autre jour, j'ai dit à ma femme, je me demande si les gens réalisent bien cela. Je désire que vous tous, vous puissiez le réaliser. Dussiez-vous rester ici la journée entière ? Oui, nous voulons le posséder, voyez-vous ? Nous voulons savoir que c'est la vérité et si vous pouviez seulement le voir. Après cela, je laisserai à votre disposition les plans et les croquis pour vous permettre de les recopier, l'après-midi ou à l'heure que vous le désirerez. Cela vous aidera à comprendre. Maintenant, résumons ce que nous savons pour partir d'une base sûre. Daniel était inquiet au sujet de son peuple. Il avait lu les prophètes, les prophéties de Jérémie annonçant que la captivité à Babylone durerait 70 ans. Et à ce jour, il constatait que sur cette période, 68 années avaient été déjà accomplies. Il savait donc que la fin était proche. Toutes affaires cessantes, il arrêta toutes ses activités et il ne tint plus compte de ses emplois du temps journaliers. Il tourna sa face vers Dieu en prenant le sac et la cendre, il jeûna, il pria pour pouvoir comprendre ce qui arrivera à son peuple. Le ventilateur tourne un peu trop fort, je vais m'enrouer. Merci beaucoup, frère. Nous avons découvert que Daniel agissait ainsi pour pouvoir conduire son peuple. Et je pense que si Daniel, lisant les livres des prophètes, persuadé que le temps de la fin était proche, cria à Dieu à ce sujet, ne pensez-vous pas que nous aussi, à l'heure que nous vivons, nous devons nous approcher de Dieu? Nous n'avons pas à prendre le sac et la cendre, mais nous devons rejeter loin de nous toutes les choses de ce monde et toutes les vanités de cette vie. Nous devons chercher Dieu pour découvrir en quel jour de l'année nous vivons, car nous voyons que nous sommes à la fin. Aussi que l'Église jeune est prise pour être prête, c'est pourquoi j'ai pris sur moi, sans pouvoir me l'expliquer, de vous parler des 70 semaines de Daniel. Je suis incapable de vous expliquer ces 70 semaines de Daniel, car je ne les comprends pas moi-même jusqu'à ce jour. C'est pourquoi j'ai pris sur moi d'essayer de vous les expliquer, et je crois qu'avec l'aide de Dieu, j'y parviendrai par sa grâce. Ainsi, vous comprendrez combien nous sommes très près du retour du Seigneur. Il restait donc 2 ans à attendre pour Daniel. Nous avons constaté que pendant qu'il priait, il reçut la visite de l'ange Gabriel. Non seulement celui-ci lui révéla ce qu'il adviendrait à son peuple à la fin de la captivité à Babylone, mais également le destin des Juifs. Il dit à Daniel, il reste encore 70 semaines pour les Juifs. Nous avons vu que les 6 objectifs étaient les suivants. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie et oindre le plus saint. Et dimanche dernier dans la matinée, nous avons vu Daniel prier dans l'après-midi. Nous avons donné les différentes écritures à lire chez vous concernant toutes ces prophéties. Les avez-vous lues? Les avez-vous aimées? Elles sont merveilleuses. Et en examinant ces 6 objectifs, nous avons découvert que ce dernier, l'onction du plus saint, concernait l'église, le tabernacle. La dernière chose à accomplir sera d'oindre le plus saint. Il s'agit du tabernacle du millénium, qui sera la demeure de Dieu, est la nôtre durant le millénium. Aujourd'hui nous approchons. Que sont ces 70 semaines? C'est quelque chose d'important. C'est une partie des Écritures des plus vitales. Nous savons que les Écritures ne peuvent mentir. Elles doivent être la vérité. Et l'ange Gabriel est venu pour dire à Daniel qu'il ne restait que 70 semaines pour les Juifs. Visuellement, la semaine est composée de 7 jours. Mais dans la prophétie, il est toujours question de paraboles. Il ne fait aucun doute qu'au cours des âges, il y a eu des milliers et des milliers de personnes, des étudiants et des gens capables qui ont essayé d'expliquer les 70 semaines de Daniel. J'ai lu beaucoup de commentaires à ce sujet. Je suis très reconnaissant à M. Smith de l'Église Adventiste pour les siens, de même pour les commentaires du Dr Larkin, également pour ceux de ces grands spécialistes, de ces grands étudiants. Ils m'ont beaucoup éclairé. Mais pour posséder la vision de ce que je désirais vous expliquer, je consultais l'encyclopédie du temps pour découvrir ce que le temps signifie. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce qu'une semaine? Il y a maintenant 3430 ans que Dieu a commencé de s'occuper des Juifs. Daniel vivait 538 ans avant Jésus-Christ. Et lorsqu'il fut question des 70 semaines, et à cette époque, il devait encore rester 2 ans à Babylone, soit plus de 70 semaines. Et pourtant, Dieu lui révéla que c'était ce laps de temps qui avait été déterminé pour le destin du peuple juif. Ceux de mon église, de ce tabernacle, m'ont entendu dire depuis de nombreuses années, si vous voulez savoir quel est aujourd'hui le jour de la semaine, consultez votre calendrier. Mais si vous voulez savoir en quel temps nous vivons, observez ces juifs. C'est la seule horloge. Pour les gentils, les païens, Dieu n'a pas fixé une période définie les concernant. Et je pense qu'en ne tenant pas compte de cette parenthèse, beaucoup de grands écrivains ont tout mélangé. Parce que Dieu disait à Daniel, ton peuple, beaucoup ont essayé d'appliquer ces messages aussi bien aux juifs qu'aux gentils. Mais Dieu parlait à Daniel et pas à l'église. Le peuple de Daniel, c'est le peuple juif. Voilà pourquoi le peuple juif, c'est l'horloge de Dieu. Il y a peu de temps, le frère Argan Braid de Californie, vice-président de l'Association internationale des hommes d'affaires du plein évangile, nous a rendu visite. Il vint chez moi et il projeta un film « Minuit moins 3 minutes ». c'était le résultat de recherches scientifiques. Et quand je vis ces Juifs qui retournaient à Jérusalem, je descendis dans ce tabernacle et je vous ai dit, il me semble que j'ai eu une reconversion. De voir tous ces Juifs revenir, je pensais à ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 24. Quand vous voyez le figuier bourgeonner, vous savez que l'été est proche. Voyez-vous, les Juifs retournent chez eux. Et j'ai inscrit quelques notes sur ce papier. J'aimerais vous les lire lentement afin que vous puissiez les noter. Et l'étude que nous sommes en train de faire concerne uniquement les Juifs. L'Église n'est pas concernée. Les chapitres 4 à 18 de l'Apocalypse concernent les Juifs. L'Église ne s'y trouve pas. Les 70 semaines concernent uniquement le peuple juif. Et sur le tableau noir, j'ai intercalé les 7 âges de l'Église entre ces 70 semaines. Les parties hachurées en blanc indiquent l'Église apostolique remplie du Saint-Esprit. Les parties noires, l'apostasie. Et dans le premier âge de l'Église, le cercle est complètement blanc. C'était l'Église apostolique. Dans le second âge, il est mentionné en noir les œuvres des Nicolaïtes. Ce n'était pas encore une doctrine. Et dans le troisième âge, cela devient une doctrine. Dans le quatrième âge, l'âge sombre, tout cela fut organisé. Ce fut la papauté de Rome. Et tout ce qui est en noir dans ces cercles représente soit le nicolaïsme, soit le romanisme. Ce qui est en blanc représente le Saint-Esprit, l'épouse. Et au début, dans le premier âge, c'était l'époque de Paul, où toute l'Église apostolique était remplie du Saint-Esprit. Puis, les aristocrates commencèrent à venir. Finalement, ils se groupèrent, se consolidèrent pour former une nouvelle Église en brûlant, lapidant et donnant aux lions ce qui restait de la petite Église du début. Pour Luther, il y eut la Réformation, un arc de cercle blanc lumineux, voyez-vous? Et dans les jours de Wesley, l'arc s'agrandit, la lumière devint un peu plus brillante, mais dans le dernier âge, celui de Laodicée, le nôtre, le cercle blanc se rétrécit, et il n'y a plus beaucoup de lumière. Quelqu'un a dit à la vue de ce dernier cercle dessiné sur le tableau, « Honte à vous, frère Branham, ce grand jour de lumière !» Je répondis, « Je ne pense pas que le fait d'être criblé rende quelqu'un justifié. Quand vous possédez dans votre cœur la vraie pureté, si vous êtes né de nouveau de l'Esprit. » Rappelez-vous, cette église de Laodicée fut le seul âge de l'Église où Christ fut rejeté de sa propre Église, de toutes. Nous avons eu une grande confession. Mais avons-nous une possession? C'est ce dont nous parlons. Christ est-il réellement dans l'Église? Il se trouve plutôt dans une toute petite minorité. Maintenant, permettez-moi d'esquisser ce que sont ces 70 semaines de Daniel. Je le répète de nouveau à l'adresse des prédicateurs de l'Évangile qui m'écoutent. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Tant pis. Ces 70 semaines de Daniel se divisent en trois périodes, comme nous l'avons vu dans le chapitre 9 de Daniel. D'abord une période de 7 années, puis une période de 62 semaines, enfin une période d'une semaine. J'ai dessiné sur le tableau noir ces trois périodes, la première, la seconde, qui suivant ma conviction, née de l'Évangile et du Saint-Esprit, marquera le temps de la fin où Dieu retourne de nouveau aux Juifs. Nous savons par les Évangiles et les Épîtres de Paul que Dieu retourne de nouveau aux Juifs. Comment ce retour peut être évoqué du temps de Daniel? Il doit correspondre à la fin de ce dernier âge, quand l'épouse sera enlevée, car Dieu agit envers Israël en tant que nation, alors qu'envers chacun de nous, il agit en tant qu'individu. J'ai devant moi quelques notes que j'aimerais vous lire. C'est le 14 Nisan 445 avant Jésus-Christ que fut ordonnée la reconstruction de Jérusalem, et la construction du temple fut achevée 49 ans plus tard, ainsi que la cité de Jérusalem. Ce fut le temps annoncé par l'ange Gabriel à Daniel. Cette reconstruction devait s'effectuer en des temps troublés. Beaucoup d'entre nous se rappellent que lors des travaux, les ouvriers tenaient une brique dans une main et dans l'autre, ils avaient une épée pour se garder des ennemis. Elle sera reconstruite en des temps de troubles. Ainsi, c'est là le point de départ pour calculer mon jour. Nous avons connu trois calendriers. Le plus ancien établi par Jules César en l'an 708 de Rome fut appelé le calendrier Julien et comprenait une année de 365 jours un quart. Puis en 1582 de notre ère, le pape Grégoire XIII institua l'année de 365 jours. C'est le calendrier actuel, le calendrier grégorien. Mais dans le calendrier prophétique, l'année ne comporte que 360 jours. Vous pouvez vous étonner d'une telle confusion. D'où vient-elle? Voici mon opinion personnelle. Je pense très éloigné avant le déluge. Au temps de Job, il déterminait le temps en se servant des étoiles. Et bien avant cette époque, le monde était en équilibre. À la suite du péché de l'homme, le monde ayant été noyé, il se produisit d'immenses glaciers, et les deux pôles de la terre se couvrirent de glace. Nous connaissons cela. La terre prit une certaine inclinaison. La rotation qui autrefois permettait un examen immuable des étoiles se modifia par suite de l'inclinaison du globe. Il y avait décalage dans l'observation des étoiles et de la lune. Comprenez-vous? Je pense que c'est cela qui s'est produit. Il en était ainsi en ces temps-là. Cela montre seulement qu'il s'agissait seulement d'une période de temps. Comprenez-vous? Dieu pourvoit à toutes choses. Je crois vraiment que tout cela fut accompli ainsi et que dans les derniers jours, Dieu révélera ses secrets à l'Église. Il ne l'a pas encore fait dans le but de tenir l'Église veillant et priant, sans relâche, ignorant le jour exact du retour de Jésus. Mais rappelez-vous que dans Daniel 12:10, il est écrit « Les sages comprendront ces choses dans les derniers jours. Cela leur est réservé. Et l'Esprit de la sagesse vient dans l'Église pour lui faire connaître par la révélation du Saint-Esprit en quel jour nous vivons. Comme Gabriel est venu vers Daniel, le Saint-Esprit vient dans l'Église dans les derniers jours pour révéler tous ces grands et profonds mystères. Comprenez-vous maintenant? Et du fait de l'inclinaison de la terre, tous les calendriers sont plus ou moins erronés, puisqu'ils ne comprennent pas un nombre de jours bien défini, tel le calendrier grégorien. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire à ce sujet, mais la nature elle-même nous apprend qu'il y a seulement 30 jours dans un mois. Et dans Apocalypse, chapitre 11, verset 3, nous voyons que les deux prophètes prophétiseront durant 1260 jours, soit pendant 3 ans et demi, ou 42 mois de 30 jours. Le calendrier prophétique est le seul qui soit correct. De nos jours, il y a dans certains mois 28 ou 29 ou 30 ou 31 jours. On ne s'y reconnaît pas. Dieu n'a pas utilisé un tel calendrier. Pour lui, le mois comporte toujours 30 jours. Tout cela a été établi dans le grand cycle économique de Dieu pour garder l'Église veillant et priant, pour qu'elle soit prête, ayant lavé ses vêtements dans le sang de l'agneau. Oh, dans ces derniers jours qu'il a promis. Maintenant, nous voyons où nous vivons. Rappelez-vous que le dessein de l'âme est d'agir ainsi. La construction du temple fut achevée au bout de 49 années, au bout de 7 semaines prophétiques. C'est ainsi que nous avons compris que la semaine prophétique comportait 7 années et non pas 7 jours. Voilà l'explication basée sur des faits réels. Et par la suite, nous n'aurons pas à nous faire de soucis au sujet de la semaine prophétique. Elle comportera toujours 7 années. Le frère Branham se dirige vers le tableau noir pour illustrer son exposé, note de l'éditeur. 49 ans pour la reconstruction du temple. Ici tout en haut, ce point situe la nation juive, puis le trait descend jusqu'à la reconstruction du temple. Il descend encore jusqu'à la 69e semaine, puis c'est l'époque des gentils pour un temps indéterminé, le temps des gentils. La ligne remonte ensuite et Israël prend le relais jusqu'à la fin de la 70e semaine. Dans Luc, chapitre 21, le verset 24, Jésus a prophétisé « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Aucune durée n'a été déterminée à ce temps des nations. Reprenons de plus près le verset Luc 21, 24. « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs. » De qui parle-t-il? Des Juifs? Il s'agit de la destruction du temple et de la cité en l'an 70. « Et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. » Notez bien, non pas seulement à Babylone, non seulement à Rome, mais au travers de toutes les nations. C'est dans toutes les nations que se trouvent les Juifs actuellement. « Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Il y a là un temps fixé, mais personne ne le connaît. C'est un mystère. Le temps des gentils est indéterminé. Par contre, le temps des Juifs est bien délimité. C'est le temps fixé par le calendrier. Voyez-vous, Dieu leur a fixé un jour, une heure, un temps. Il ne l'a pas fait pour les gentils, il l'a fait pour les Juifs. Ainsi, si vous voulez savoir où nous en sommes, surveillez les Juifs. Suivant Daniel 9, 25, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, il y a 7 et 62 semaines, donc 69 semaines de cette année. Nous voyons que 7 fois 69 années font 483 ans. Christ, le Messie, est donc attendu 483 ans après le 14 Nisan 445 avant Jésus-Christ. C'est le 2 avril 30 après Jésus-Christ que Jésus le Messie fait son entrée triomphale à Jérusalem, monté sur une mule blanche le dimanche des rameaux. De l'an 445 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 30 après Jésus-Christ, il y a 475 ans et non 483. Il y a une différence de 8 ans. Dieu ne peut pas se tromper. S'il a dit tant de jours, cela doit être exactement tant de jours. Qu'allons-nous faire? Si au lieu de nous servir du calendrier de Julien, nous utilisons le calendrier prophétique, nous trouvons alors exactement 483 ans. Nous y voilà. Arrêtons-nous ici même juste une minute. Je désire qu'il n'y ait pas le moindre doute à ce sujet dans votre esprit. C'est par les Écritures que je veux vous prouver que la semaine biblique est composée de 7 années. Dans Apocalypse chapitre 11 verset 3, les deux prophètes doivent prophétiser pendant 1260 jours, ce qui représente 3 ans et demi, sur la moitié de la dernière semaine des Daniel. Alors, ils sont retranchés et la bataille d'Armageddon survient. Et dans ce texte d'Apocalypse chapitre 11 verset 3, nous voyons que les 42 mois indiqués sont des mois de 30 jours. Il ne s'agit pas de mois de 28, 29 ou 31 jours. Le calendrier prophétique précise bien que l'année est composée de 360 jours. De 445 avant Jésus-Christ à l'an 30 après Jésus-Christ, il y a donc 483 années prophétiques, soit 69 semaines de 7 ans chacune. Et quand les Juifs ont rejeté le Christ et l'ont tué en 33 après Jésus-Christ, il s'est passé exactement 483 ans. Le Messie, le Prince, viendra quand? 69 semaines d'années après l'ordre donné pour la reconstruction de Jérusalem. 69 fois cette année, soit 483 années. La prophétie est réalisée exactement. Nous voyons donc que l'Écriture ne se trompe pas. Quand Dieu détruisit le monde avant le déluge, il changea l'heure astronomique et il permit aux Romains d'instituer leur propre calendrier en dents de scie. J'ai appris cela dans l'encyclopédie que j'ai consultée. Frère Kenny Collins, êtes-vous présent dans cette réunion? Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez adressé toutes ces encyclopédies? Je me disais, que peut faire de tout cela un incapable tel que moi? Savez-vous, frère Kenny, que c'est le Seigneur qui vous a conduit? C'est dans cette très ancienne encyclopédie que j'ai puisé toutes ces informations. Nous avons compulsé ce livre, ma fille Becky et moi. Je l'étudiais dans mon bureau, dans ma pièce du sous-sol. C'est là que j'ai découvert tous ces calendriers et toutes ces dates. 483 années se sont écoulées depuis le jour où furent ordonnés les travaux de reconstruction de Jérusalem jusqu'au jour où le Messie, le Prince, fut rejeté par les Juifs. Voyez-vous, nous devons nous servir du calendrier prophétique dans l'étude des Écritures, car si Dieu l'a utilisé du temps de Daniel, il l'utilisera également tout au long de la Bible. N'est-il pas vrai? Dieu ne change pas. Oh, comme j'aime savoir de quoi je parle. Oui, j'aime cela, j'aime cela. Un jour, un brave homme du Kentucky me dit, « J'ai écouté un homme qui parle de ce qu'il connaît bien. » Moi aussi, lui répondis-je, « Qu'en est-il de vos prédicateurs? On ne comprend rien de ce qu'ils veulent dire. » « Eh bien, dis-je, j'apprécie votre compliment, mais il existe certaines choses que nous connaissons parfaitement et dont nous parlons. Je sais que je suis né de nouveau. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je sais que Dieu existe, car je lui ai parlé. Il a parlé par ma bouche. Il m'a parlé. Il a parlé à d'autres. Il m'a parlé des autres et je sais qu'il est Dieu. C'est vrai, comme j'ai apprécié sa venue ici-bas, lorsqu'il a permis de rester auprès de moi lors d'une prise de vue photographique. Le monde scientifique ne peut pas le nier. J'ai examiné les Écritures et j'ai vu ce qui caractériserait ce dernier âge de l'Église. Et tout se passe comme prévu. Aussi je sais que nous vivons en ces temps-là. Amen. Nous pouvons manquer d'instruction, nous pouvons ne pas être des personnes de haut rang, nous pouvons ne pas être des dignitaires vis-à-vis du monde, mais par contre nous connaissons Dieu, nous le connaissons à cause du Saint-Esprit, nous savons que cela est vrai, parce qu'au travers des Écritures, nous en avons la confirmation verset après verset. Nous vivons dans le dernier jour. Rappelez-vous, cette année prophétique de 360 jours, pas un de plus, pas un de moins. Le calendrier prophétique a fixé la période des 69 semaines à 483 années. Ici, nous avons la preuve exacte de la prophétie. 445 ans avant la venue de Jésus-Christ était exactement correct. Tout ce qui fut prophétisé au sujet de ce qui devait se passer durant ces 70 semaines n'a pas encore été révélé. Cette révélation est réservée pour les derniers jours. Je m'adresse maintenant à vous, mes frères pentecôtistes, à vous, mes frères des témoins de Jéhovah. Savez-vous quand les 144 000 apparaîtront? Savez-vous à quel moment apparaîtront les grands miracles de l'Apocalypse? Pas dans l'âge de l'Église, mais dans l'âge juif, après l'enlèvement de l'épouse. Évidemment, avec la puissance de Dieu, nous pouvons accomplir des exploits et des miracles, nous savons cela. Mais la réelle puissance agissante, celle des miracles, sera connue dans l'âge juif, durant la 70e semaine. Les 144 000 sont postérieurs à l'âge de l'Église. Ce dernier âge prend fin au troisième chapitre de l'Apocalypse. C'est dans le sixième chapitre qu'il en sera question. Tout ce qui a été annoncé doit se réaliser durant la 70e semaine, la dernière semaine. Et puisque les 69 semaines prophétisées se sont déroulées comme prévu, il reste donc une semaine réservée aux Juifs pour que les 70 semaines promises à ce peuple soient terminées. Maintenant, frères, écoutez bien, voyez comme nous sommes près de la fin. Il ne reste plus qu'une semaine, plus que 7 ans. Chacun a-t-il bien compris cela? C'est la pure vérité, c'est ce que dit la Bible, ce sont les années prophétiques. Depuis le rejet du Messie, il reste une semaine. Ici, je désire m'arrêter un moment pour bien vous expliquer cela. Quand les Juifs rejetèrent le Messie, ils rejetèrent Jésus comme sauveur et ils le crucifièrent. Rappelez-vous ce que dit la Bible à ce sujet. Il sera retranché, le Messie, le Prince. Voyez comment cette prophétie s'est réalisée avec exactement les temps fixés et de la façon qui était prévue. Cette dernière semaine de 7 ans se déroulera exactement comme indiqué dans les Écritures. Rappelez-vous, le Messie fut retranché. Dès ce moment, Dieu cesse toute relation avec les Juifs. Ils n'iront pas plus loin, ils seront dispersés par l'Empire romain. Et sur le plan que j'ai dessiné, sur le tableau noir, vous remarquez la croix que j'ai dessinée à cet endroit. C'est là où les Juifs ont rejeté Jésus. Mais 40 ans plus tard, le général romain Titus détruisit Jérusalem et dispersa le peuple juif au travers du monde entier. Dieu s'était occupé des Juifs jusqu'au jour de la crucifixion du Christ. Et quand ils eurent crucifié Christ, ils crièrent « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». C'est ce qui s'est passé depuis cette époque. Notez bien ceci, frères. Avant qu'ils ne soient dispersés sur toute la terre, Dieu attendit encore 40 ans avant que le temple soit détruit et le peuple juif dispersé. Mais Dieu cessa toute relation avec eux. Il se tourna alors vers les gentils. Vous comprenez bien cela? C'est à ce moment le début des âges de l'Église, le début du temps des gentils, Dieu s'étant détourné des Juifs. Maintenant, mon frère missionnaire, qui êtes allé auprès des Juifs, voici ce que je voudrais vous faire saisir et comprendre. Dieu, depuis ce moment-là, ne s'est plus occupé des Juifs, car Dieu s'occupe toujours d'Israël en tant que nation. Nous savons tous qu'Israël est une nation, alors que les gentils sont un peuple. Dieu désirait tirer des gentils un peuple à lui pour son nom. Nous allons voir cela dans quelques minutes. Les 7 âges de l'Église jalonnent la période du temps des gentils depuis la crucifixion jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Et après la fin des âges de l'Église, nous allons trouver les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 trompettes qui se produisent ensemble et qui concernent les Juifs et le jugement de Dieu sur le peuple de la terre et le reste. Et dans ce grand temps de persécution, des millions de gentils périront. Ils représentent les vierges folles et le reste de la semence de la femme qui n'a pas fait partie de l'épouse. C'est ainsi que cela se passera. C'est aussi clair que ces 70 semaines de Daniel, aussi clair que cela, le reste de l'Église traversera ainsi la tribulation à venir. Aussi, si vous ne possédez pas le Saint-Esprit, vous avez intérêt à l'obtenir le plus rapidement possible, car nous sommes au temps de la fin. Je ne tiens pas à revenir sur les sept âges de l'Église, car nous les avons enregistrés sur bande, nous les avons diffusés par des livres, mais n'oubliez pas que Dieu n'a jamais fixé une date précise à la fin de cette dispensation des Juifs, des gentils. Elle durera jusqu'à ce que Jérusalem ne soit plus foulée aux pieds par les nations. Nous avons constaté au travers des âges de l'Église que l'Esprit Saint y entra et se manifesta, et au commencement du premier âge, Dieu montra à Jean ce qui se passerait durant le règne des gentils. Aucun temps déterminé n'est fixé pour ce règne, comme cela fut accordé aux Juifs. Mais nous aurons un signe, nous aurons un poteau indicateur. Dieu accomplit envers les Juifs tout ce qui avait été prophétisé durant 483 années sur les 490 années totales. Il reste maintenant pour les Juifs une semaine de 7 ans sur les 70 qui leur avaient été fixés par Daniel. Toutes ces semaines n'ont rien à faire avec l'Église, celle des gentils qui est la nôtre. Combien parmi vous comprennent-ils cela? L'histoire de notre Église est décrite dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, jusqu'à la 7e et dernière Église, celle de Laodicée, et dans laquelle nous vivons actuellement. Dieu ne veut aucun pécheur dans son Église, à moins qu'il ne veuille être sauvé. Au début, cette Église était toute blanche. Alors vinrent les Nicolaïtes, qui désiraient former une organisation. Les dignitaires y pénétrèrent. Cela se produisit à Nicée en 325, au Concile de Nicée. Rome fut le siège de cette nouvelle Église organisée. Que firent-ils? Ils organisèrent l'Église et ils commencèrent à persécuter les vrais chrétiens. Et dans l'âge de l'Église, suivant la presque totalité de la chrétienté baptisée dans le Saint-Esprit, fut balayée et anéantie. J'ai compulsé de nombreux ouvrages, tels que les pères de Nicée et les pères prénicéens et les plus anciens manuscrits concernant toute l'histoire des premières Églises. Tous, sans exception, prouvent que la véritable Église dont Dieu parlait n'était pas cette Église romaine organisée ou toute autre organisation. Dieu parlait de toutes ces grandes étoiles des âges, étaient des hommes qui enseignaient le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ, la venue de l'Esprit de Dieu, le parler en langue, l'interprétation des langues, la guérison divine, les miracles et les signes. Ce sont les dons de Dieu. Dieu est immuable, il ne change pas. Il ne peut dire « l'Église apostolique est dans mes voies », puis dire « l'Église des dignitaires me convient davantage ». Dieu ne change pas, il est toujours le Saint-Esprit, il est encore le Saint-Esprit. Tout ce que dit Dieu, que ce soit dans la nature ou dans les Écritures, s'accomplit obligatoirement exactement comme il l'a projeté au temps et à l'heure fixée. Tout ce que Dieu a dit par la bouche de Jean s'est réalisé ou se réalisera. Il en est de même en ce qui concerne l'âge des gentils. Sans aucune ombre de doute, nous nous trouvons actuellement dans l'âge de Laodicée. Nous savons que nous y sommes. L'âge de Wesley a précédé cet âge de Laodicée, et l'âge luthérien a également précédé l'âge de Wesley. Actuellement, nous vivons dans l'âge de Laodicée, le dernier âge. Nous réalisons que chacune de ces églises a eu un messager. Nous avons remarqué que les 7 églises étoiles que tenait dans sa main droite celui qui ressemblait à un fils d'homme étaient les anges ou les messagers des 7 églises. Chaque église avait son messager. Nous avons découvert par la Bible quelle était la nature de chacun de ces messagers. Et dans l'histoire, nous avons choisi l'homme qui possédait cette nature, et ainsi nous avons pu découvrir dans l'histoire celui qui était le messager de telle ou telle église. Tous étaient remplis du Saint-Esprit, et nous avons découvert les œuvres réalisées par les uns et les autres. Tous ces saints, tels que Irénée, Columbus, étaient remplis du Saint-Esprit. Nous savons à l'examen des Écritures que ce type de l'Esprit devait se manifester sur ce type d'homme, dans un temps bien déterminé. Il en est ainsi. Aussi, aucune erreur n'est possible. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, frère. Dieu parle lui-même dans la parole, et tout ce qu'il dit surpasse toutes mes connaissances personnelles. Et quand j'entends Dieu dire quelque chose, je dis « Amen ». C'est vrai. C'est la réponse à tout. Tout est alors réglé. Dieu l'a dit. Et quand Dieu a dit « cela arrivera comme ceci », nous voyons que l'histoire confirme l'Écriture. Nous avons lu dans la Bible tout ce qui concerne telle ou telle église, ce qui se fera dans tel ou tel âge, quel genre de messager lui sera affecté. Qu'il s'agisse de l'église de Sardes, de Thyatire ou de Laodicée, ou de tout autre, nous consultons nos livres d'histoire et nous découvrons alors les messagers correspondant à ces églises. Nous avons alors dessiné le plan concernant les différents âges de l'église sur le tableau noir et nous avons inscrit le nom du messager correspondant à chaque église. Nous savons que tout concorde exactement. Nous savons que de tout temps, Dieu s'est dressé contre les religions organisées. Oui, monsieur, il a dit « Je déteste les œuvres des Nicolaïtes ». Nicolaïte est composé de deux mots, « Nico, conquérir » et « Laïti, la laïcité », c'est-à-dire les membres de l'Église, le corps de l'Église. Il s'agit d'instituer la hiérarchie dans l'Église et de mettre à la tête un homme saint, responsable. Nous sommes tous des enfants. Nous avons un roi, ce roi c'est Dieu, nous avons un seul saint unique et c'est Dieu, amen. Et ce Dieu unique se trouve au milieu de nous, sous la forme du Saint-Esprit, c'est celui qui est saint, l'unique. Examinons bien toutes choses pour avoir la conviction, confirmée par l'histoire, par le calendrier, par l'heure prophétique de Dieu, qu'il a fallu 69 semaines au peuple juif pour passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, est montré que l'histoire du calendrier prophétique de l'Ancien Testament se confirme dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, l'Église des gentils a débuté à la Pentecôte. Elle s'est poursuivie durant les sept âges, et nous savons que nous vivons les derniers jours du dernier âge. Amen. Comprenez-vous? Si donc nous vivons à la fin de cet âge de l'Odyssée, si nous vivons le dernier jour, où en sommes-nous? Regardez sur le tableau ce point où Dieu se détourna des Juifs. Il a fallu 40 ans, de l'an 30 à l'an 70 de Titus, pour mettre le peuple juif en condition pour recevoir son châtiment, la dispersion dans toutes les nations. De même, avant que sa parole revienne aux juifs, dans les derniers temps, un délai similaire sera nécessaire pour que les juifs soient en condition pour la recevoir. Comprenez-vous ce que je veux dire? Que tous ceux qui ont compris disent « Amen ». L'assemblée répond « Amen », note de l'éditeur. « Merci ». Je veux être sûr d'avoir été bien compris. Et maintenant, qu'arrive-t-il? Regardez sur le tableau noir cette petite extension au-dessus de ce dernier âge. Le jour des gentils arrive à leur terme. Et depuis 40 ans, les Juifs retournent chez eux à Jérusalem. Voyez où nous en sommes? Il y a eu un délai de 40 ans entre la crucifixion du Messie et la destruction du Temple suivie de la dispersion des Juifs dans le monde entier. Il a fallu un délai de 40 ans pour amener d'Égypte à la terre promise le peuple hébreu au travers du désert, après que Dieu eut endurci le cœur de Pharaon. Mais aujourd'hui, ils retournent dans leur patrie, et l'Église vit ses derniers jours. Amen. Oh, j'essaye de lire, et je n'y arrive pas. Regardez, les Juifs sont de nouveau chez eux. Si vous lisez l'ouvrage numéro 2 de la fin de la guerre mondiale, vous voyez que le général anglais Allenby part à la conquête de Jérusalem défendue par les Turcs. Sans avoir tiré un coup de canon, les Turcs se rendent et Jérusalem est libérée. Les troupes anglaises composées de chrétiens défilent dans les rues, la tête découverte. Depuis, Dieu a endurci le cœur de Mussolini, le cœur d'Hitler, le cœur de Staline et tous les cœurs de ceux qui dans le pays haïssent ces juifs. Vous avez vu, il y a 3 ou 4 ans, dans le magazine Life, ce reportage concernant le retour des juifs en Israël, au moyen de ces grands oiseaux, avions de la TWA. Dieu ramène les Juifs dans leur patrie, qu'ils avaient quittée il y a près de 2000 ans, alors que les gentils se préparaient. Aujourd'hui, les gentils ont chassé Christ en dehors de son Église. Il ne peut même pas retourner dans son Église. Il n'y a aucune place pour lui, il est rejeté, et c'est vraiment le temps fixé pour l'enlèvement de l'épouse. Tous ces petits points sur le tableau représentent tous les rachetés, tous les saints, qui sont enlevés à la première résurrection. Voyez-vous, nous nous retrouverons tous là-haut. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 17, « Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les morts en Christ, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous élèverons tous de points différents du globe. Et maintenant, mes frères pentecôtistes, comment pouvez-vous comprendre cela au travers de l'âge de la Odyssée? Dans chaque âge, il y en a qui se sont endormis et qui attendent. Et nous qui sommes vivants, ce petit groupe qui reste ici, nous restons vivants jusqu'au retour du Seigneur. Nous ne gênerons pas ceux qui sont endormis, car au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, ensuite les vivants, nous serons tous ensemble. Amen. Oui, tous ensemble, nous y voilà. Nous retrouvons tous ici, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Êtes-vous là? Nous sommes ici même, où le Messie fut-il retranché, exactement à l'endroit indiqué dans la parole. Quand cette dernière semaine commencera-t-elle? Exactement au moment même où l'épouse sera enlevée. Alors Dieu se retourne vers les Juifs. Dès que l'épouse est enlevée, les Juifs prennent la relève. Le prochain événement attendu ne sera pas une nation puissante ou un réveil national parmi les gentils. Non, le prochain événement attendu sera le retour du Christ et l'avènement du royaume de Dieu. Si vous le désirez, lisons ce passage de Daniel chapitre 2 versets 34 à 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Notez la composition de cette statue suivant Daniel 2, 32-33. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Voyez la progression. La tête était en or, la poitrine était en argent, un métal plus dur que l'or. Le ventre et les cuisses étaient d'airain, métal encore plus dur que l'argent. Les jambes étaient de fer, mais les 10 orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile de plâtre. Dieu dit à Daniel, comme tu le vois, le fer ne peut pas former un alliage avec le plâtre, car ces 10 royaumes divisés ne pourront pas s'intégrer l'un à l'autre, mais ils mélangeront leurs semences ensemble pour essayer de briser le pouvoir de l'autre. Vous voyez, quelle fut l'interprétation du songe par Daniel? La tête d'or pur représentait Nebuchadnezzar. Un autre roi viendra qui te sera inférieur. Ce sera Darius le Médo-Perse qui s'empara du royaume des gentils. Puis viendront les Grecs avec Alexandre le Grand. Les Grecs s'empareront du royaume. Après les Grecs viendront les Romains. Qui donc contrôle le monde des gentils depuis ce temps-là? Ce sont les Romains, ceux de Rome. Ils représentent le fer, voyez-vous? Rome existera jusqu'à la fin, car elle se trouve dans les orteils. Ce peuple est fait d'argile, de boue, et le fer représente la force de Rome, qui se manifeste dans toutes les nations qui se trouvent sous les cieux. Il n'existe qu'un homme sur terre qui peut arrêter ou déclencher une guerre en disant un seul mot, c'est le pape. S'il dit qu'aucun catholique ne prenne une arme, tout est alors réglé, frère. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en vain, la plus grande partie du monde chrétien est catholique. Vous voyez, c'est vrai. Qu'ils disent un seul mot, nous verrons cela plus tard. Qui est capable de faire la guerre avec la bête? Qui peut parler comme lui? Qui peut le faire? Lisons Apocalypse, chapitre 13, versets 14 et 15. Qui peut faire une image de la bête? Qui peut animer l'image de la bête afin que l'image parle? Il s'agit là de la confédération des églises, voyez-vous? Confédérer toutes les dénominations, ce qui est déjà fait. Oh oui, nous sommes juste à la fin. Tout cela le démontre, mes amis. Faisons une image à la bête. Une image est la représentation de quelque chose. Voyez-vous, nous sommes à la fin des temps. Voyez dans Daniel chapitre 2, versets 34 et 35, ce qui doit se passer à la fin de cet âge. Daniel examine cette statue, cette image, avec une grande attention. Il l'examine jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans l'aide d'aucune main. Elle dévale la pente. Elle vient frapper l'image à ses pieds même, la brisant totalement. Ce n'est pas la tête qu'elle touche, mais les pieds. C'est la fin des temps. Ce sont les 10 orteils qui sont écrasés. Avez-vous remarqué que peu avant son départ, notre dernier président protestant, M. Eisenhower, de l'autre côté, M. Eisenhower, était à la tête des 5 pays occidentaux qui le suivaient. Notez bien ceci. En langage russe, Khrouchtchev signifie plâtre, et en anglais, le mot Eisenhower signifie fer. Voilà, le plâtre et le fer qui ne pourront jamais se rencontrer à la Russie dans une des dernières conférences de sa présidence. Il y avait là M. Khrouchtchev, dirigeant les 5 pays de l'Est qui l'avait accompagné. De l'autre côté, M. Eisenhower était à la tête des 5 pays occidentaux qui le suivaient. Notez bien ceci. En langage russe, Khrouchtchev signifie plâtre, et en anglais, le mot Eisenhower signifie fer. Voilà, le plâtre et le fer qui ne pourront jamais se mélanger, Le Russe, qui ne voulait pas se mélanger, sortit sa chaussure et en frappa le pupitre. Mais c'est dans les jours de ces deux empires que le rocher se détachera de la montagne, frappera les pieds de l'image et la détruira sans l'aide d'aucune main. Cette montagne devait être une montagne de pierre, de rocher, comprenez-vous? Maintenant, je m'adresse à mes frères dans le ministère, à tous mes frères et aussi mes sœurs du monde entier. Je crois au fond de moi-même que la première Bible qui fut écrite, Dieu l'écrivit dans le ciel, car l'homme doit lever les yeux et voir qu'il y a un Dieu dans le ciel qui se trouve au-dessus de lui. Examinez le zodiaque. Je crois comprendre que le premier signe est celui de la Vierge et le dernier est le lion. La première venue du Christ s'accomplit par la Vierge et à son retour sur la terre, il sera le lion de la tribu de Juda. Voyez-vous, nous découvrons un autre signe biblique dans la construction de la grande pyramide d'Égypte. Elle est constituée de blocs solides. Sa base est élargie comme celle d'une montagne. Savez-vous qu'à l'extrême point de la pyramide, il manque le chapeau, la pierre angulaire? Sortez un billet $1 de votre poche. Examinez-les d'un côté, vous avez le sceau américain, et de l'autre côté, dans le bas, il y a l'image d'une pyramide. Et au sommet de la pierre angulaire, il y a un très grand œil. La légende de l'image inscrite au bas de la pyramide est le grand sceau. L'aigle américain n'est-il pas le grand sceau? C'est le sceau de Dieu. Vous souvenez-vous de ce petit cantique? Tout le long de la route, dans cette véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui vous surveille à chacun de vos pas. Ce grand œil est ouvert, il y a un œil qui vous surveille. C'est vrai. Vous savez que lorsque nous fêtons un petit jubilé, nous disons, si tu voles et triches et mens, et si dans l'église tu témoignes, il y a un œil qui te surveille. Nous connaissons maintenant ce grand sceau. Je ne connais pas les dimensions de la pyramide. Dans une prochaine leçon, je vous entretiendrai de la question. La pyramide représente l'église. Elle est large à sa base, puis se rétrécit au fur et à mesure que l'on s'approche du sommet, à l'image d'un entonnoir. Nous constatons que le sommet de cette pyramide est incomplet. Il manque la pierre angulaire qui doit coiffer le monument. Pourquoi? Je me le demande. La Bible dit que la pierre angulaire a été rejetée. Écoutez bien maintenant, ne le manquez pas. C'est au début de la Réformation sous Luther que l'âge de l'Église se manifeste. Bien longtemps avant, dans les premiers temps de l'Église, la fondation était la doctrine des apôtres. Nous avons vu ensuite au cours des âges la véritable Église devenir de plus en plus minoritaire. Ce fut l'âge sombre du Moyen-Âge. Puis Luther prêcha la justification. Avant lui, si vous confessiez être chrétien, vous étiez mis à mort. C'était l'époque des martyrs. Plus tard, du temps de Wesley, pour être appelé un membre sanctifié de l'Église, il fallait confesser Jésus-Christ dans cette nouvelle méthode. Ces gens-là vinrent ici et ils vitinrent des réunions dans des salles d'école, car ils étaient indésirables dans leurs églises. Un jour, le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils s'effondrèrent et ils étaient allongés sur le sol. On leur versa de l'eau sur le visage, on les éventait pensant qu'ils étaient évanouis. Je me suis rendu à leur réunion quand j'avais 50 ans. Sous le pouvoir du Saint-Esprit, je les ai vus s'effondrer. On les arrosait et on les éventait, comme cela m'avait été rapporté. C'étaient les vieux méthodistes libres de ces dernières années. Il s'agissait d'une révélation. Et après la fin de cet âge, l'âge des méthodistes, ce fut l'âge de la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, l'Église prend forme de plus en plus, mais la pierre d'angle n'est toujours pas là. Pourquoi? Il façonne l'Église avec précision, où la pyramide s'élève de façon à recevoir au sommet la pierre angulaire. Mais celle-ci n'est pas encore venue. Oh, vous voyez où j'en arrive, n'est-ce pas? Et dans le croquis, au tableau concernant l'âge de la Pentecôte actuelle, l'arc de cercle lumineux est à peine visible. Il ne s'agit pas des dénominations de la Pentecôte, car elles agissent comme les Nicolaïtes organisées. Du reste, elles font partie de l'église de Laodicée. Mais la véritable église dans le monde entier est reléguée à une place où il lui est réservé un ministre de Jésus-Christ choisi parmi ses membres. Actuellement, dans notre âge, qu'en est-il? Ils ont la chose en condition. Que doit-il arriver maintenant? Cette pierre rejetée au sommet de la pyramide, cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, Daniel 2,45, c'est Dieu qui l'envoie. La voyez-vous? Celui qui a été rejeté, la pierre rejetée, est la tête de la pierre angulaire. Celui-là qu'ils ont rejeté durant cet âge des gentils, c'est Christ lui-même. Et Christ ne fut pas coupé et mis ici comme un vicaire ou comme le Fils de Dieu ou comme un grand dignitaire dans l'Église. Christ, c'est le Saint-Esprit et la pierre angulaire de la pyramide sera Christ à son retour. Le comprenez-vous? Voyez sur ce tableau comment j'ai dessiné l'Église en forme de pyramide. La résurrection des saints ouvre la marche dans la gloire. Comprenez-vous? Christ est la pierre angulaire, le rocher rejeté, l'œil qui voit tout. Il revient exactement comme la Bible l'a annoncé. Et Daniel dit qu'il surveille cet âge des gentils jusqu'à ce que la pierre, non taillée par des mains humaines, se détache de la montagne. Ils n'ont jamais posé la pierre angulaire au sommet de la pyramide. Elle n'était pas taillée par les mains d'un homme. Ce sont les mains de Dieu qui ont taillé la pierre. Voyez-vous? Et que fit-elle? Elle écrasa les pieds même de la statue de l'image. Et tout vola en éclats. Tout fut réduit en poussière. Alléluia! Que se passa-t-il au même instant? L'épouse fut enlevée dans la gloire. Ce fut la fin de la dispensation des gentils. Dieu y mit fin au moyen de cette pierre. Et dans ce tabernacle, un couple a l'habitude de venir ici. Ils posent leur Bible quelque part, puis ils vont chantant. « Oh, je cherche des yeux cette pierre qui va rouler dans Babylone. » À leur retour, ils chantent « Je cherche des yeux cette pierre qui vient écraser Babylone. » Le voilà, Christ est cette pierre. Il n'a pas été engendré par un homme. Il est né de Dieu. Il vient chercher une église née de nouveau par l'Esprit de Dieu. La puissance de cette pierre angulaire agit comme un aimant au travers de l'église. Cela me rappelle le jour où, me trouvant sur cette colline, j'assistais à l'enlèvement de ferraille qui se trouvait dans une usine. Ils utilisèrent une énorme pierre aimantée qui attira à elle toute cette ferraille. Nous devons être aimantés à cette pierre d'angle, attirés par cette pierre angulaire qui est le Saint-Esprit, le Christ. Chacun d'entre nous qui possède cette aimantation du Saint-Esprit sera attiré à lui lorsque cette pierre descendra de la montagne et frappera cette statue, cette image. L'épouse sera enlevée ce jour-là pour la gloire avec tous les saints. Nous avons découvert que les Juifs commencent à retourner chez eux depuis 40 ans environ. C'est le même laps de temps qui fut constaté entre la crucifixion et la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Il leur faudra maintenant environ 40 ans depuis le début de leur retour dans la mère patrie pour reconstruire un autre temple. Voyez-vous, nous arrivons au bout du chemin. Relisons Daniel 9, 27. Le prince qui doit venir fera une alliance avec les Juifs pour une semaine. Je verrai cela un peu plus tard. Chacun des sept âges des gentils est caractérisé par un messager, par un message et par l'annonce de ce qui se passerait dans cet âge. Le premier âge fut un âge glorieux. Le suivant connaîtra les dires des Nicolaïtes, puis cela se transforma en doctrine, puis vint le mariage de l'église Nicolaïte et la persécution des saints, et tout se passa comme prévu. Puis dans le cinquième âge, celui de Luther, un peu de lumière apparaît. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 et 2. Et dans le sixième âge, celui de Wesley, c'est le plus grand âge d'amour que nous ayons jamais eu. Du reste, l'Église est appelée l'Église de Philadelphie, qui aime les frères. Et le septième âge qui suivit, celui de la Pentecôte, connut la tiédeur. Tâchons de découvrir quelle sorte de message sera donné à cet âge, l'âge de la Odyssée. Rappelez-vous que dans chaque âge, le message se trouve à la fin de l'âge. Saint Paul, le messager du premier âge, vint à la fin, et les autres messagers se manifestent à la fin de leur âge, qu'il s'agisse de Saint Irénée ou des autres. Ils transmettent à leurs successeurs leur héritage. Et dans ce dernier âge, le nôtre, il y a une étoile, il y a un messager, comme dans les âges précédents. Il y a un message particulier destiné à cet âge. Certains l'accepteront, d'autres le rejetteront. Le messager de cet âge doit venir dans la puissance d'Élie. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. C'est vrai, il doit ramener la foi des enfants à la foi de leur père, ceux de la Pentecôte originelle. Il doit amener le reste des pentecôtistes qui subsistent à la véritable foi apostolique. Si vous lisez les actes des apôtres, vous verrez qu'en ces temps apostoliques, il n'y eut jamais une personne baptisée dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucune n'a jamais été baptisée par aspersion, et ceux de la Pentecôte d'origine ne sont pas à comparer à ce qu'on appelle aujourd'hui les pentecôtistes. Ils connaissaient de véritables manifestations de l'Esprit. car l'Esprit de Dieu qui était parmi eux se révélait infaillible dans le Fils de Dieu qui opérait en eux. Le message qui leur était destiné devait être à l'image d'Élie. Élie doit apparaître à 3 reprises. Vous devez penser que Jean-Baptiste incarna l'une de ces 3 apparitions, car dans Malachie chapitre 3, Jésus a annoncé que Jean-Baptiste serait son messager. Ceci est confirmé par Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 11, verset 10. Mais dans les derniers jours, un esprit d'Élie doit venir parmi le peuple. Il fera de nos jours ce qu'il a fait dans le passé. Sa nature sera la même, c'est-à-dire la nature de l'Église. La nature de la personne sera également la même, et son message qu'il essaiera de proclamer. Il a été haï par le peuple, il a détesté les femmes, celles qui étaient parées, les mauvaises tout au moins. Il aimait la solitude du désert, et il aimait le recueillement. Et comme le furent Élie et Jean, il sera tout le temps étrange et bouleversant. Nous avons vu arriver toutes ces choses. Si nous avons eu le message, nous voyons Christ rejeté. Pour qu'il soit accepté, le messager doit appartenir à l'une de ces dénominations bien organisées. Sinon, il sera rejeté. Il ne lui sera pas permis de parler dans ces églises. On le mettra dehors. Voyez-vous, Christ ne peut pas opérer parmi eux. Qu'êtes-vous, un chrétien? À quelle dénomination appartenez-vous? À aucune. Alors nous vous ignorons. Voyez-vous, Christ est rejeté. Ainsi Élie fut rejeté et également Jean-Baptiste. Mais quoi? Pensez-vous que cela les arrêta et que leurs messages ne furent point proclamés? Non, ils les écartèrent en les traitant de coups raides. Ils répandirent sur eux leurs messages. Ils ne leur donnèrent pas des coups de poing. Ils allèrent de l'avant et le message de Dieu se répandra en dépit de tout ce que chacun pourra dire. Voyez-vous, jusqu'à la consommation des siècles, ce qui a été déterminé sera répandu. Et maintenant, nous sommes à la fin des temps. Nous constatons maintenant que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, depuis 40 ans, les Juifs retournent dans leur propre pays. Dieu ne s'occupe jamais d'Israël lorsqu'il se trouve loin de chez lui. Vous vous souvenez de l'article du magazine Look concernant le retour des Juifs dans leur pays? J'ai lu une coupure d'un autre hebdomadaire religieux dans lequel il était parlé d'avions se rendant en Iran et en d'autres endroits pour ramener les Juifs dispersés dans ces pays directement en Israël. Il s'agit là de vrais Juifs qui n'avaient eu jusqu'alors aucune possibilité pour retourner chez eux. Ce sont ceux qui feront partie des 144 000. Lisez Apocalypse chapitre 7. Toutes précisions sont données à leur sujet. Où se trouvent ces 144 000 des 12 tribus d'Israël? Sur le mont Sion. Les Juifs sont de retour chez eux. Ils y sont. Sont ceux de Wall Street au nez crochu? Non, monsieur. Ce sont des Juifs véritables. Et j'ai lu dans ce dernier magazine que ces Juifs labouraient leurs champs avec des charrues de bois. Et quand ils virent ces avions atterrir auprès d'eux, ils ne s'en approchèrent pas. Alors leur vieux rabbin se tint devant eux et il leur dit, « Rappelez-vous ce que notre prophète a dit quand nous retournerons dans notre patrie, que nous y serons transportés sur les ailes d'un aigle. Les nations sont détruites, Israël se réveille. Voilà les signes que les prophètes ont prédits. Nous sommes sur le point d'entrer dans cette 70e semaine. » Je me souviens du jour où le frère Pétrus remit ici à un groupe de Juifs des Nouveaux Testaments. Ils les lirent, puis ils dirent, « Eh bien, si Jésus est le prophète annoncé, qu'il fasse devant nous le signe du prophète, et s'il n'est pas mort, il est vivant. » Ils continuèrent en disant, « Il a été ressuscité, il vit dans son Église. Puissions-nous le voir accomplir le signe du prophète, et nous croirons en lui. » Les Juifs y croient toujours. Ils savent que le Messie doit être un prophète. Ce jour-là, je me trouvais auprès du frère Argan Brahit à l'endroit où se tenaient ces Juifs. Ils me dirent, « Venez tout simplement chez nous, en Israël, vers notre peuple. » Je leur répondis, « Mais sûrement, je serai heureux d'y aller. » Je pris cette décision avec trop de précipitation et je suis parti pour le Caire, en Égypte. La face numéro 1 de la bande est incomplète, note de l'éditeur. Des milliers de conducteurs, mettez-les en évidence quelque part. Nous constaterons s'il est toujours et encore un prophète ou non. Amen. Voyons un peu ce qu'il va faire. C'était à leur portée. C'est ce qu'ils désiraient. S'ils pouvaient voir cela, ils le croiraient. Que fis-je? Je partis donc pour le Caire en route pour Israël. Et au Caire, il y avait une attente de 20 minutes. Quelque chose me disait, pas maintenant, la coupe d'iniquité des gentils n'est pas encore pleine. Les Amorites
n'ont pas tout réalisé. Tiens-toi loin de là. Je pensais que cela venait peut-être de mon imagination, et je me mis derrière un hangar et je priais. Et il me dit, pour le moment, tiens-toi loin de là. Je fis modifier mon billet d'avion, et je pris une autre direction. Je n'allais pas en Israël, car l'heure n'était pas encore venue. Maintenant, à quel moment Dieu permettra-t-il à ces Juifs de retourner à lui de nouveau? Je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien, personne ne le sait. Mais écoutez bien, si Israël est déjà dans sa patrie, c'est déjà tout ce que Dieu a promis se réalise à la lettre. Ils ont creusé des puits, les eaux vont se répandre en courant d'eau et irriguer tout le pays. Israël est le plus beau pays que vous ayez jamais vu. Ils ont construit une grande cité là-bas. Ils possèdent l'irrigation, ils ont la terre, la meilleure du monde. Nous avons constaté que dans la mer morte, il existe plus de richesses chimiques qu'il est nécessaire pour acheter même le monde entier. Voyez-vous, toutes choses tombent directement dans leurs mains. Comment cela peut-il se faire? Parce que le cœur d'Hitler a été endurci, parce que le cœur de Mussolini a été endurci. Et comme dans les temps anciens, c'est parce que le cœur du Pharaon fut endurci qu'ils purent quitter l'Égypte et atteindre le pays promis. Et depuis 40 ans, ils retournent actuellement chez eux, et maintenant ils attendent. L'âge de la Odyssée, le dernier âge du temps des nations des gentils. Actuellement, les Juifs sont retournés chez eux. L'apostasie des gentils se manifeste. Nous avons un président tel que celui que nous avons voulu. Nous avons une nation qui est brisée, comme vous le voyez. Nous possédons des bombes atomiques entassées dans des silos. Nous avons une église qui est tiède. Nous avons une confédération d'églises comprenant des gens qui se sont réunis d'eux-mêmes. Nous avons un ministère qui copie le ministère de Jésus-Christ pour saisir la pierre angulaire quand lui viendra. Que reste-t-il à attendre? Il ne reste rien d'autre. Nous sommes à la fin des temps. Elle peut surgir d'un moment à l'autre. Ô gloire! J'ignore si je serai capable d'entrer dans ce jubilé ou non, mais ce que je désire seulement, c'est qu'il y ait une petite place pour vous de toute façon. Écoutez bien, combien parmi vous ont les yeux ouverts en ce moment? Avez-vous vu comment les Écritures prouvent que la durée des 7 premières semaines représente exactement 49 ans? Par suite, comprenez-vous que les 62 semaines suivantes correspondent à 434 ans et que les 69 semaines totalisent 483 années? Vous voyez à quel moment le prince fut retranché. Vous avez vu qu'il a fallu aux Hébreux une période de 40 ans pour les amener au pays que Dieu leur avait choisi. Et de l'exil parmi les nations au retour chez lui. Ce que la Bible a prophétisé concernant la fin de l'âge des gentils se réalise à la fin de l'âge que nous vivons, l'âge de la Odyssée. Et depuis 40 ans, les Juifs retournent dans leur pays se tenant prêts pour que Dieu fasse exactement ce qu'il a promis de faire. Ils partirent de ce côté et ils arrivent de ce côté, et Israël est de retour dans son pays. Et maintenant, quand Dieu donnera-t-il le départ à leur dernière semaine? Peut-être aujourd'hui, peut-être avant le coucher du soleil. Dieu seul le sait. Quand cela se passera-t-il? Je n'en sais rien, je me le demande. Mais dans quelques minutes, je vais vous annoncer quelque chose. Je ne sais pas si vous le croirez ou non, mais de toute façon, je dois vous le dire. Nous sommes dans notre patrie, les Juifs se trouvent dans leur patrie, nous sommes à la fin de l'âge, prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement est là, l'épouse monte là-haut, nous sommes enlevés pour le rencontrer dans les airs. Nous connaissons tout cela, le rocher qui s'est détaché de la montagne peut venir s'écraser ici à tout moment. Que se passera-t-il alors? Ce sera la fin du temps des gentils, tout est terminé, Dieu en a fini avec eux. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, 11. Voyez-vous, alors que fait-il? Il prend son épouse remplie de l'esprit, et le reste de l'église, ceux qui ne sont pas enlevés, c'est la vierge assoupie et folle, et tous ceux qui passeront en jugement devant le trône blanc. Ils seront jugés par ceux qui auront été enlevés, par les rachetés. Paul nous a avisés à ce sujet, disant que les saints jugeront la terre et le monde. 1 Corinthiens 6:2. C'est vrai, sûrement nous sommes à la fin des temps. Et maintenant, puisque nous arrivons à la fin du temps des gentils, il reste encore une semaine de 7 ans avec les Juifs. N'est-ce pas vrai? Il leur reste 7 ans, n'est-ce pas vrai? Si quelqu'un veut me poser une question, je veux la connaître, voyez-vous? Et nous voyons qu'au milieu de cette semaine, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans et demi, le prince qui doit venir, l'Antichrist, rappelez-vous, il vient de Rome. Le prince qui doit venir, qui est-il? Un pape, un prince parmi le peuple. Un pharaon se lèvera qui n'a pas connu Joseph. Exode 1:8. J'entends les protestants dire, bien c'est cela, pas si vite. Nous avons constaté que les protestants ont une organisation. Ils ont constitué une confédération d'églises qui est l'image de la bête. Apocalypse chapitre 13 verset 14. Et ils la suivent. Nous avons également constaté que les juifs ont été invités à faire partie de cette confédération. Oui monsieur, et ils ont donné leur accord, c'est la Bible qui le dit. Et l'Antichrist fait un accord avec eux, et au milieu de la semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, il dénonce cet accord. Pourquoi? Relisez Apocalypse 11, et vous aurez la réponse. Dieu envoie ses deux prophètes pour prophétiser à Jérusalem durant 3 ans et demi. Il n'accepte pas ses prophètes, et il les tue. N'est-il pas vrai? Et leurs corps seront exposés à Jérusalem, dans la rue spirituelle appelée Sodome et Gomorre, où notre Seigneur fut crucifié. N'est-il pas vrai? Ils resteront là pendant 3 jours et 3 nuits. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, l'esprit de vie pénétrera en eux, ils ressusciteront et ils partiront dans la gloire. À ce moment-là, la 10e partie de la cité s'écroule, n'est-ce pas vrai? Voyez-vous, quand cela se passe-t-il? Au milieu de cette dernière semaine de 7 ans, la 70e, et quand l'épouse est enlevée, la Confédération mondiale des églises se constitue. Elle comprend les vierges folles, les méthodistes, les presbytériens, ceux de la Pentecôte et tous les autres. Le nouveau pape de ces jours-là voudra les absorber tous dans son giron. Ne voyons-nous pas actuellement que le fruit mûrit? Pendant des centaines et des centaines d'années, ce projet mûri depuis longtemps n'a pu se réaliser. Mais à ce moment précis, tous sont englobés dans cette confédération. Les juifs seront invités à la joindre et ils accepteront. Oh gloire! Alléluia! Louange à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Maintenant nous y sommes, frères. C'est aussi simple que cela. Un petit enfant le comprendrait. Cette confédération sera composée de juifs, de protestants, de catholiques, tous réunis ensemble. Et que feront ces deux prophètes quand ils viendront? Que fera ce prince qui dispersera le pouvoir du peuple saint? Il dénoncera après 3 ans et demi l'alliance qui le liait aux juifs. Il les évincera. Maintenant, certains pensent qu'il s'agit du communisme. Cela prouve que l'Esprit de Dieu n'a rien à faire avec ces gens-là. Ce prince, cette bête, ce n'est pas le communisme, c'est la religion. La Bible a dit par la bouche de Jésus, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Oui, nous sommes dans les derniers jours. Et maintenant, ces deux prophètes, que vont-ils faire? Voici Moïse et Élie qui entrent en scène. Ils vont faire comprendre aux Juifs leur erreur. C'est de ce groupe de Juifs maintenant éclairés que sortiront les 144 000. Ce sont ces deux prophètes envoyés de Dieu qui les appelleront. L'esprit d'Élie qui vient de quitter l'église des gentils sera transféré aussitôt dans cette église juive et il appellera à son aide Moïse. Alléluia! Comprenez-vous? Et il prêchera à ces Juifs le même message de la Pentecôte originelle, à ces Juifs qui ont rejeté le Messie. Amen. Il appartiendra à ces deux Juifs de prêcher ce message à tous ces Juifs du temps de la fin, et ces derniers seront tellement exaspérés qu'ils tueront ces deux prophètes. Ces derniers seront haïs par toutes les nations au milieu de cette dernière semaine, parce qu'ils auront suscité ce groupe puissant des 144 000. Ces deux prophètes accompliront des miracles, car ils seront remplis du Saint-Esprit. Ils arrêteront les cieux et il ne pleuvra point durant les jours de leur prophétie. Ils frapperont la terre de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Ils donneront aux Romains du fil à retordre, mais finalement ils seront tués. Notre Dieu est un Dieu véritable et terrible quand il est en colère. Mais retenez-le bien, tout ceci se passe durant la 70e semaine, alors que l'épouse est dans la gloire. Amen. Le repas de noces se poursuit, oui. Et maintenant, notez ceci, à la fin de l'âge juif, ils retourneront au temple du millénium, là-bas. À ce moment, le roi des rois et le seigneur des seigneurs apparaîtra chevauchant son cheval blanc, revêtu d'un vêtement blanc trempé dans le sang, et son nom est la parole de Dieu. Il arrive, ce puissant conquérant. Oui, monsieur, pour installer le millénium, et il se dirige vers le temple. Gloire! Il y rencontre les 144 000 juifs. Et tout cela se passe durant cette 70e semaine. Au milieu de cette semaine, ce prince tue ses deux prophètes de la Pentecôte. Oui, monsieur, et il dénonce l'alliance signée avec les juifs. Mes enfants, Dieu a maudit cette église de Rome. Il l'a brûlée. Nous avons remarqué que même les marins qui assisteront à cet embrasement diront « La grande cité immortelle de Rome a été détruite en une seule heure. » Apocalypse chapitre 18, verset 19. « Elle éclata en morceaux. Dieu sait ce qu'il fait. » Et l'un des anges qui était présent regardait et disait « Pourquoi cela ? » Parce que le sang de chaque martyr de Christ fut trouvé en elle, car elle a trompé dans son organisation, elle a fait toutes sortes de choses, elle a pollué l'Église en y apportant des changements, elle a martyrisé ceux-là même qui ont essayé de la soutenir, elle a essayé de chasser les Juifs. Gloire ! Oh, je ne sais pas, je me sens comme transporté. Voyez-vous, n'êtes-vous pas heureux de cette lumière du soleil, de marcher dans cette lumière ? Où en sommes-nous, frères ? Nous sommes à la dernière heure. Tout cela a pu arriver à n'importe quel moment, et nous sommes là. Le message a été donné à la dernière Église. L'Église a rejeté son Christ. Les Juifs sont dans leur patrie depuis 40 ans. C'est l'espace de temps prévu. La nouvelle cité a été construite. Qu'attendent-ils ? La venue du Messie. À quel moment ? Je ne le sais pas, mais quand cette pierre frappera l'image, tout sera terminé. Rappelez-vous, au milieu de la semaine, 3 ans et demi après, l'Antichrist, le prince, dénonce l'Alliance et il fait cesser le sacrifice et l'offrande. Il dit, vous êtes toutes des églises, vous pouvez être reçus dans cette image de la bête. Nous allons nous unir, nous allons nous séparer du communisme, nous allons le chasser d'ici. Voyez-vous, elles pouvaient le faire, voyez-vous, elles l'ont fait. Et maintenant, suivez bien cela, l'adoration journalière, le sacrifice journalier, cela sera rétabli dans la cité quand le temple sera reconstruit. Ce prince qui doit rompre cette alliance supprimera tout sacrifice et agira ainsi jusqu'à la fin des temps. L'abomination de la désolation s'étendra partout. Et qu'entend-on par abomination ? Ce sont les souillures. Rendre désolé veut dire rendre comme un désert. Étendre ceci pour se débarrasser de cela. Comprenez-vous ? Et le pouvoir de Rome s'étendra partout pour se défaire de toutes ces vierges folles, les Juifs et tout le reste qu'il mettra dans sa coupe. Nous serons tous des adeptes de Rome, où nous ne serons rien. Il dénoncera son alliance au milieu de la semaine. Et l'étendue de l'abomination, et au temps de Jésus l'abomination, fut apportée par les Romains grâce à leur propagande. Aujourd'hui l'abomination vient encore de Rome, et elle s'installe dans l'Église pour y apporter la désolation, et cela durera jusqu'à la fin. C'est la fin des temps. Et maintenant, juifs, catholiques, protestants, représentant les vierges folles, vont faire bloc en s'unissant dans la Confédération mondiale des églises. Tout se passera comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu chapitre 24, verset 24, et dans Apocalypse chapitre 13, verset 14. Revoyons ces passages. Matthieu chapitre 24, verset 24. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Apocalypse chapitre 13, verset 4, « Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Nous savons déjà, sans l'ombre d'aucun doute, qui était cette bête, ce pouvoir qui avait été mortellement blessé et qui vivait. Il s'agissait de la Rome païenne qui avait été tuée et remplacée par la Rome de la papauté. Le pouvoir de la première était passé à la seconde. Il nous a averti de cela dans Matthieu 24, 24 et dans Apocalypse 13, 14. Lisons ce que Paul, ce grand prophète du Seigneur, rempli du glorieux Saint-Esprit, nous annonce dans les derniers jours. J'y crois de tout mon être. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Paul essaye de dissuader ses auditeurs de l'imminence du retour de Jésus, car auparavant il faut que l'Église apostate, la nôtre, celle de l'Odyssée, se manifeste, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, comme le fut Judas, le trésorier de l'Église, et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes frères, existe-t-il une personne sur la terre en dehors du Vatican qui puisse faire cela? Où se tient-elle? Dans Apocalypse chapitre 17, verset 9, nous voyons que cet homme se trouve dans une cité reposant sur 7 collines. Et dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, nous voyons que le nombre de la bête est un nombre d'hommes, 666. Le pape s'intitule le vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Vicarius Fili Dei. Relevons ces lettres correspondant à des chiffres. V égale 5, plus I égale 1, plus C égale 100, plus I égale 1, plus V égale 5, plus I égale 1, plus L égale 50, plus I égale 1, plus I égale 1, plus D égale 500, plus I égale 1. Soit 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5 plus 1 plus 50 plus 1 plus 1 plus 500 plus 1 égale 666. 666, c'est le chiffre de l'Antichrist d'Apocalypse 13, 18. Et dans le Vatican même, j'ai vu de mes yeux, comme je vous vois, la triple couronne du pape, la mitre à trois couronnes, la tiare papale. Ainsi je sais de quoi je parle. Cet homme s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu. Il est au-dessus de tout ce qui est divin. Il se dit le plus saint de tous les hommes. Il est assis dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu, pardonnant les péchés sur la terre et ainsi de suite. C'est vrai, Paul a dit qu'avant le retour de Jésus, l'apostasie de l'Église devait se produire en premier et le Fils de la perdition devait être révélé. Rappelez-vous que lorsque j'étais avec vous, je vous ai dit ces choses. Oh, comme j'aurais aimé me trouver assis devant Paul pour l'écouter, pour l'entendre prêcher. Pas vous? Oh! Que va faire cet homme de perdition? Une image à la bête. Écoutez bien maintenant. Du temps de Paul, l'Église pressentait déjà la venue d'un pape. Comment cela? Cela se passait à la fin du premier âge de l'Église, celui de Paul. Ils ont vu la naissance des idées des Nicolaïtes. Ils cherchaient un homme saint. Pourquoi faire? Pour en faire un pape. L'esprit du monde et les aristocrates s'étaient glissés dans l'Église et ils avaient modifié l'ordre de l'adoration. Paul, inspiré par l'esprit, s'en est aperçu. Des classiques et des personnalités, des dignitaires apparurent, et le Saint-Esprit fit connaître cela et ce qui se passerait dans les derniers jours. Vous rappelez-vous comment parlait Jésus à l'Église d'Éphèse, celle de Paul, des Nicolaïtes qu'il détestait? Apocalypse 2.6. Il s'agissait des œuvres des Nicolaïtes qui finalement devinrent une doctrine, puis se transformèrent en une organisation. Mes frères, nous ne sommes plus dans les ténèbres maintenant. Rappelez-vous-en, nous y sommes dans le temps de la fin. Et au début, les œuvres des Nicolaïtes, puis le début de l'organisation, les grands dignitaires, puis au-dessus des églises, la formation de l'Église catholique. Et Paul proclame que le temps de la fin ne surviendra qu'une fois la vraie foi de la Pentecôte disparue. Cette foi de la Pentecôte disparaîtra, et alors les dignitaires s'installeront dans l'Église. Il y aura un homme qui prendra la place de Dieu. Il sera assis dans le temple de Dieu et il s'opposera au-dessus de tous. Le Nicolaïte est celui qui combat et écrase les laïcs, c'est-à-dire l'ensemble des fidèles. Paul a dit que dans les derniers jours, il y aura l'apostasie dans l'Église en premier lieu. Nous vivons dans ce temps-là. Nous voyons l'Église s'éloigner de plus en plus de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est vrai. Combien est prochain le retour du Seigneur, la fin de cet âge et l'enlèvement de l'épouse. Et au moment où débute cette 70e semaine, l'épouse est enlevée. Le comprenez-vous, mes amis? Que ceux-ci qui s'en rendent compte lèvent la main. Ne soyons pas des enfants, ne plaisantons pas. Nous sommes à la fin des temps. Quelque chose doit se produire maintenant. Nous sommes vraiment à la fin. Nous y sommes. Les 69 premières semaines se sont déroulées comme prévu. Le départ des Juifs pour la mère patrie s'est déroulé comme prévu. Nous sommes à la fin des temps, à la fin de l'âge de l'Odyssée, le dernier des sept âges de l'Église. Tous les messages, tous les anges de cette Église ont donné leur message. Tout cela est passé. Nous allons accoster. Les Juifs sont chez eux depuis 40 ans. Ils sont dans leur patrie. Que doit-il encore se produire? L'arrivée de la pierre. Nous y voilà. Quand cela arrivera-t-il? Je n'en sais rien. Mes frères, en ce qui me concerne, je tiens à être prêt. Je veux que ma valise soit déjà faite. Nous avons encore quelques minutes devant nous et je vous demande de m'écouter bien attentivement durant quelques instants. Au moment même, au début, où débute la 70e semaine, l'épouse est enlevée. C'est ce que le Saint-Esprit a mis sur ma plume pendant que j'écrivais. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Le Christ a été rejeté par sa propre Église. L'étoile de cet âge est venue, le messager qu'il devait annoncer a été donné. Israël est dans sa patrie. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes à la fin des temps. Encore un ou deux commentaires de plus. Tout ce que nous avons vu maintenant va nous aider par sa grâce à nous approcher des sept sceaux. Comme nous avons l'intention de l'Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 19-21, il n'est question que de l'âge juif et non de l'âge des gentils. Nous serions passés à côté de ces sceaux si nous avions voulu les appliquer à ce dernier âge. Voyez-vous, nous avons prouvé en nous appuyant sur la parole de Dieu, sur l'histoire, sur les signes des temps, sur les jours actuels, que nous sommes arrivés au bout du rouleau. Il ne reste plus rien à venir. Nous nous trouvons à la fin du temps des nations, du temps des gentils. Qu'allons-nous devenir? Il s'agit de mon âme et de votre âme, de ma vie et de votre vie, de la vie de nos bien-aimés. Nous sommes trop dorlotés, nous avons trop pris les choses avec facilité. Il vaut mieux se réveiller et marcher de l'avant. Il est plus tard que vous ne le pensez. Rappelez-vous cela. Écoutez attentivement. Je passerai ensuite à un autre point dont je veux vous parler. Il n'y a pas même l'épaisseur du tranchant d'une lame de couteau entre la fin de cet âge et le retour de Christ. Rien d'autre n'est à attendre. Israël est-il retourné chez lui? Nous le savons. Vivons-nous dans l'âge de l'Odyssée? Le message de cet âge de la Pentecôte destiné à essayer de secouer le peuple pour le ramener aux bénédictions de la Pentecôte originelle n'a-t-il pas été donné? Chacun des messages des âges précédents n'a-t-il pas agi de même? Les nations ne sont-elles pas opposées l'une à l'autre? Qu'en est-il de la peste? Y a-t-il une famine sur terre aujourd'hui? Et les véritables enfants de Dieu parcourant des centaines de miles pour pouvoir écouter la vraie parole de Dieu? Je ne parle pas seulement du pain naturel. N'y a-t-il pas ce besoin d'entendre la parole de Dieu? Car la famine existe également au point de vue spirituel. En ce moment, nous vivons au milieu de cette famine. Où en sommes-nous? Nous attendons la chute de cette pierre. Écoutez bien ceci. C'est un exemple frappant. Ne perdez pas de vue cela. Depuis que Dieu a fait la promesse à Abraham, selon Genèse 12, verset 3, et aussi le verset 2 à Ur, jusqu'au jour où Christ a été rejeté en l'an 33 de notre ère, la puissance de Dieu a été manifestée aux Juifs durant 1954 années. J'ai trouvé ce renseignement en consultant la chronologie des Hébreux du Cher, confirmée par Galates, chapitre 3, versets 16 et 17. Il y a d'autres écritures à ce sujet, mais je m'en tiens à celle-ci. Pendant 1954 années, Dieu s'est occupé tout particulièrement des Juifs. Et quand ces derniers rejetèrent le Christ, Dieu se tourna vers les gentils pour y susciter un peuple à son nom. La confirmation de cela se trouve dans Actes 15-14. Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Aujourd'hui, nous sommes en 1960. Si Dieu veut nous accorder le même laps de temps pour, par la présence et la puissance de son Esprit Saint, soit 1954 années, il nous reste seulement 17 ans à attendre, car 1954 plus 33 égale 1977. Dieu s'occupera de nous aussi longtemps qu'il s'est occupé des Juifs. Qu'en dites-vous? Maintenant, notez ceci dans vos cahiers. Lisez le chapitre 25 du Lévitique à partir du verset 8. Dieu appelle un jubilé une période de 50 ans. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette et ce sera le jour des expiations. Et la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Et du premier jubilé de Lévitique 25-8 jusqu'en 1977, il y aura exactement 3430 ans, soit 70 jubilés. L'année 1977 sera l'année du 70e jubilé. Quelle est la signification du jubilé? C'est la libération. Ce jubilé sera celui de l'enlèvement, de la libération. Oh, nous attendons l'arrivée de cet heureux jour du millénium, quand notre Seigneur béni arrivera pour enlever son épouse qui l'attend. Oh, le monde gémit et soupire pour ce jour de douce libération, quand notre Sauveur reviendra de nouveau sur la terre. Avez-vous compris tout cela? Ce 70e jubilé sera celui de l'enlèvement de l'épouse des gentils. Ne le manquez pas, ce sera celui qui verra le retour de Jésus auprès des Juifs quand ils sortiront de l'esclavage. Amen. Ne le voyez-vous pas? Du monde entier, il se rassemble en Israël pour ce jour-là. Oh, voyez dans le jour dans lequel nous vivons. Nous ignorons le jour de sa venue, mais nous sommes à la fin des temps. Écoutez maintenant, à vous tous les vétérans de ce tabernacle qui depuis si longtemps le connaissent, je vais vous annoncer quelque chose. J'en ai eu sa connaissance hier seulement. C'est l'historien bien connu Paul Boyd qui me l'a annoncé. En 1933, j'étais en adoration là-bas dans le temple maçonnique sur l'emplacement duquel l'église de Christ est construite aujourd'hui. C'était un jour d'avril 1933. Avant de quitter ma maison, et je dédicassais au Seigneur ma voiture. Je la dédicassais pour le service du Seigneur. Alors j'eus une vision de la fin du monde, de la fin des temps. Notez maintenant comment ceci est frappant. À cette époque-là, vous pouvez vous imaginer quelle était la carrosserie de ces modèles 33 comparativement aux modèles actuels. Je me rendis au temple maçonnique, et les anciens s'en souviennent certainement. Je leur montrai ce que j'avais écrit à la maison sur une vieille feuille de papier. Je fis imprimer tout cela, et le monde entier en prit connaissance. Voyez-vous, cela se passait en 1933. J'avais prédit qu'une grande tragédie surviendrait sur les États-Unis avant ou vers 1977. Combien parmi vous se rappelle-t-il cela? Voyez toutes ces mains qui se lèvent. Évidemment, écoutez bien, j'avais prédit que cet événement se produirait avant que l'Amérique soit consumée par le feu. C'était une grande horreur. J'avais dit que nous participerions à une seconde guerre mondiale. Combien se rappelle-t-il de cela? Qu'ils disent Amen. L'Assemblée répond Amen, note de l'éditeur. Très bien. J'ai dit aussi que le président Roosevelt, qui alors était dans sa première présidence, serait encore réélu 3 fois et que nous serions entraînés dans une seconde guerre mondiale. Je parlais aussi du nouveau dictateur qui s'annonçait en Italie, Mussolini. J'ai dit qu'il prendrait le pouvoir et que l'Éthiopie tomberait à ses pieds. Et quand je me suis entretenu de cela, une nuit, à la galerie de l'Homme Rouge, il y avait un groupe de personnes qui voulaient m'expulser à la suite de mes prédictions. « Hé, Madame Wilson, je sais que vous étiez là-bas. Très bien. » Et quand j'ai dit cela, j'ai dit aussi que Mussolini et la femme qui l'accompagnait auraient une fin honteuse. Cela ne s'est-il pas passé? Ils ont été tous deux pendus au travers d'une rue, la tête en bas. Tout s'est passé ainsi. Et puis j'avais prédit ceci. Les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui est une disgrâce pour le pays. Un de ces jours, elles éliront le mauvais numéro. C'est ce qui s'est réalisé dans la dernière élection. Oh! Troisièmement, j'avais prédit le développement extraordinaire de la science. Quatrièmement, je disais, nous serons en guerre contre l'Allemagne. Ils construiront un grand réduit bétonné et fortifié dans lequel ils infligeront une horrible défaite à nos troupes. Dieu Tout-Puissant sait à quel endroit je me tenais à ce moment-là. J'ai vu ces nazis indépendants donner une formidable raclée aux Américains devant ce mur. Il y a ici beaucoup de garçons qui savent qu'il s'agissait de la ligne Siegfried. Et notez bien que tout cela fut prédit 11 ans avant que cette ligne fût construite. Dieu est-il vrai? Ne continue-t-il pas à prédire les événements à venir? Surveillez bien, ceci était la 4e prédiction de 1933. Venons-en à la 5e. Je disais, la science fera de tels progrès dans l'automobile que l'on arrivera à construire une voiture sans volant de direction et dont la carrosserie aura la forme d'un œuf, et cela jusqu'à la consommation des temps, jusqu'à la fin des temps. Et dans ma vision, je voyais une famille américaine descendant dans cette voiture, dans une grande avenue, tournant le dos à la route et jouant aux échecs ou aux cartes. Cette voiture existe. Nous l'avons vue à la télévision. La revue Mécanique en a parlé. Cette voiture est conduite à distance par radar. Il n'y a aucun volant de direction. Il existe un cadran comme celui de votre téléphone. Vous déterminez sur ce cadran la route à suivre et votre voiture vous amènera à destination. Sans à-coup, sans accident, un système magnétique tiendra éloigné de vous toute voiture se trouvant sur votre chemin. On y est arrivé. Oh, pensez-y, cela fut prédit 30 ans avant la réalisation. Et dans le 4e volet, je vous ai parlé de l'élection du président Kennedy. Et dans le 5e, je vous ai parlé de cette voiture en forme d'œuf. Voilà 5 prédictions déjà réalisées sur les 7 annoncées. Et dans la 6e, je disais, je vois se tenant debout une grande femme de toute beauté habillée, de vêtements royaux semblables à de la pourpre. J'ai inscrit là, entre parenthèses, elle était une personne éminente des États-Unis, peut-être l'Église catholique, une femme. Je ne sais s'il s'agit de l'Église catholique, je ne peux pas le dire. Tout ce que j'ai vu, la seule chose que j'ai vue, c'était une femme, c'était tout. Mais les États-Unis, c'est une nation de femmes. Cette nation porte le numéro 13 dans la prophétie. Elle avait 13 rayures, 13 étoiles. Au début, elle avait 13 colonies. 13, c'est le nombre qui la caractérise. Elle apparaît même dans le 13e chapitre de l'Apocalypse, et son chiffre est 13, elle est une nation de femmes. Le nombre des divorces en Amérique est plus élevé que celui de toutes les autres nations réunies, et la morale dans notre pays est plus basse que partout ailleurs, plus basse qu'en France ou en Italie, où la prostitution s'étale dans les rues. Elles sont des prostituées, mais les nôtres sont des femmes mariées qui cherchent à vivre avec plusieurs hommes. Il y a également de nombreux hommes mariés qui cherchent à vivre avec d'autres femmes. Dans les nations qui pratiquent la polygamie, c'est 1000 fois mieux, et pourtant nous savons que la polygamie est une erreur. Pour vous montrer à quel point nous sommes dégradés dans ce pays, je vais vous lire une coupure de journal que j'ai conservée et qui parut peu après la dernière guerre. Le titre était « Qu'arrivera-t-il à la moralité du peuple américain ?» Et au retour au pays, 3 hommes mariés sur 4 durent divorcer à la suite de l'inconduite de leurs épouses. Ce pays est une nation de femmes, avec une déesse à sa tête. Enfin, la dernière vision, la 7e, après cela, je me retournais et je regardais, et je vis alors les États-Unis soufflés, brûlant de toutes parts, des rochers incandescents, tout brûlait comme s'il s'agissait de bûches embrasées, aussi loin que je pouvais voir, tout était soufflé, puis la vision me quitta. À ce jour, 5 de ces 7 visions ont été vérifiées, puis je prédis, je n'ai jamais dit que c'était le Seigneur qui me révéla cela, mais ce jour-là, me trouvant dans l'église, je disais, le temps marche. J'ai couru de commencement du mur jusqu'à l'autre bout, je disais, le temps marche. Je ne sais pourquoi je dis cela, mais j'ai prédit que tous les 7 événements que j'avais annoncés s'accompliraient entre 1933 et 1977. Ce n'est qu'hier seulement, et Dieu connaît mon cœur, que j'ai su que l'année 1977 serait celle du 70e jubilé depuis Lévitique 25:8. À ce moment, Dieu aura consacré au temps des gentils autant d'années qu'il en consacra au peuple juif depuis Abraham jusqu'à la croix. Actuellement, nous sommes à la fin de l'âge, à la prochaine venue de la 70e semaine. Nous ignorons le moment de l'enlèvement de l'épouse. Oh, que pouvons-nous faire, mes amis? Où en sommes-nous? Voyez-vous en quel temps nous vivons? Et avez-vous seulement compris ce qu'est la 70e semaine de Daniel? Rappelez-vous, quand nous avons étudié les 7 sceaux, à l'ouverture de chacun d'eux, dans le premier sceau apparaît un cavalier sur un cheval blanc. Il avait un arc dans sa main. Surveillez-le, vous savez qu'il est l'Antichrist. Surveillez ce cheval pâle qui clôt le défilé. Surveillez ces 144 000 juifs. Surveillez cette vierge assoupie quand elle s'élève. Surveillez toutes ces choses, à quel moment elles se produisent. Le déversement des 7 coupes, les 3 malheurs, les 3 esprits mondes, tels que les crapauds, voyez-vous comme tout cela s'emboîte bien l'un dans l'autre au moment voulu. Voyez ces 7 fléaux, avec quelle précision dans le temps ils frappent la terre. Et chaque fois qu'un sceau est ouvert, un fléau le suit, et la destruction se produit. Considérez bien ce qui va se produire maintenant à la fin de l'âge. Surveillez bien ces 2 prophètes quand ils se manifesteront. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, ils seront retranchés comme cela. Alors commence la bataille d'Armageddon. Alors Dieu commencera à se manifester lui-même, à parler lui-même. Alors il se tient debout et il commence à combattre. Et ses prophètes frappent la terre. Ils prêchent le nom de Jésus-Christ. Ils baptisent en son nom. Ils font exactement ce que faisaient les premiers pères de la Pentecôte. Et plusieurs les suivent. Mais ces 2 prophètes ne peuvent venir à bout de tous ceux qui se sont organisés, et ces derniers finalement décident de former une seule confédération, une seule organisation. Qu'en résulte-t-il? L'abomination, le romanisme qui s'étendra partout et entraînera la désolation. L'abomination qui produit la désolation introduit en toute chose la souillure et l'immondice. Vous vous souvenez de cette vieille mère prostituée qui est assise sur une bête écarlate vêtue de pourpre? Et cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Vous rappelez-vous cela? Et cette grande prostituée tenait dans sa main une coupe remplie des impuretés de son abomination. Cette coupe était pleine de sa doctrine qu'elle répandait sur le peuple. Mes petits enfants, nous ne savons jamais. Peut-être ne serons-nous plus en vie ce soir. Peut-être nous ne nous reverrons plus de nouveau. Je l'ignore, mais la fin est si proche. Elle est si près de nous. C'est l'Écriture qui le dit. Tout cela, c'est une preuve scripturaire absolument parfaite. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, écrivez-moi et tenez-moi au courant, voyez-vous. N'hésitez pas à le faire. Et vous, mes frères, qui êtes au loin et qui écoutez ces bandes, si je peux vous aider en quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Vous pouvez être en désaccord avec moi. Je peux moi-même ne pas être d'accord non plus avec vous personnellement, mais avec le système de votre organisation. Je ne suis pas en désaccord avec le peuple catholique. Je ne dis pas que je n'aime pas les personnes qui sont catholiques, mais je n'aime pas l'organisation à laquelle elles sont assujetties. J'aime tous les gens, mais je ne suis pas d'accord avec le système qui les tient liés. C'est bien cela. Je n'étais pas contre l'Allemagne, mais contre le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens, mais contre le fascisme. Rappelez-vous également qu'en 1933, j'ai fait une autre prédiction. Je dis bien une prédiction au sujet des trois idéologies qui voulaient conquérir le monde. Il s'agissait du fascisme, du nazisme et du communisme. Qu'ai-je dit à ce sujet ? Que le fascisme et le nazisme tomberaient tous deux dans le communisme. Je vous répéterai toujours ce que je vous ai toujours dit. Tournez vos yeux vers la Russie. Vous rappelez-vous ? Elle amènera toutes les nations au communisme, comme le catholicisme attirera à lui toutes les autres dénominations. À ce moment-là, ce sera la fin des temps, parfaitement exacte. Ce sera la bataille d'Armageddon, et Christ lui-même viendra en personne participer à ce combat. Rappelez-vous Apocalypse 11.3, « Je donne pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Alors ils seront tués dans la rue, juste au milieu de cette 70e semaine. » Vous voyez où en sont les 70 semaines de Daniel? Vous voyez à quelle époque nous vivons? Nous sommes à la fin, mes amis bien-aimés, nous sommes à la fin. Les nations sont détruites, Israël se réveille, ce sont les signes que les prophètes ont prédits, nous y sommes. Les jours des gentils sont comptés, avec leur cortège d'horreur, ô vous les dispersés, retournez chez vous. Chantons maintenant, les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes tremblent de peur, soyez remplis de l'esprit, que vos lampes soient nettoyées et claires, levez les yeux, votre rédemption est proche. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Les nations sont détruites, Israël se réveille, ce sont les signes que les prophètes ont prédits, les jours des gentils sont comptés avec leur cortège d'horreur. Ô vous les dispersés, retournez chez vous. Et maintenant, tous ensemble, le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes tremblent de peur, soyez remplis de l'esprit, que vos lampes soient nettoyées et claires. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Laissez-moi vous chanter un petit verset. Les faux prophètes mentent, ils nient la vérité de Dieu, que Jésus le Christ est notre Dieu. Ils en font un en trois personnes, vous savez cela, mais il n'est pas ainsi, il est notre Dieu. Mais nous marcherons sur les traces des apôtres, car le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes tremblent de peur, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, que vos lampes soient nettoyées et claires. Levez les yeux, votre rédemption est proche. N'êtes-vous pas heureux? Retournons au message, frère. Retournons à l'original. Retournons à la Pentecôte. Retournons à la bénédiction véritable. Retournons au nom de Jésus-Christ. Retournons au baptême du Saint-Esprit. Retournons aux signes et aux miracles. Retournons à la Pentecôte. Sortez de vos organisations. Retournons au Saint-Esprit. Il est notre instructeur. Car le jour de la rédemption s'approche. Le cœur des hommes tremble de peur. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Que vos lampes soient nettoyées et claires. Levez les yeux, votre rédemption est proche. N'est-ce pas merveilleux? Qu'ont dit les prophètes? Il viendra un temps, vous ne pourrez dire s'il fait nuit ou jour. Voyez comment ce sera, voyez. Oh, comme ce fut si mauvais durant ces âges de l'Église. Mais il y aura de la lumière au temps du soir. Vous trouverez sûrement le chemin de la gloire. Et dans le cours d'eau, il y a de la lumière aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés, le Saint-Esprit viendra sûrement. Et ces lumières du soir sont venues, c'est un fait que Dieu et Christ sont un, ce sera la lumière. Chantez tous ensemble au temps du soir, vous trouverez sûrement le chemin de la gloire, et dans le cours d'eau il y a de la lumière aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés, le Saint-Esprit viendra sûrement, car les lumières du soir sont venues. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. Pas trois, mais un. Revenez au message, revenez au commencement, revenez à ce que Paul a enseigné, revenez au baptême qu'il a pratiqué. Et quand il vit des gens baptisés d'une autre façon, il leur dit de se faire rebaptiser. Il a dit, si un ange venu du ciel prêche autre chose, qu'il soit maudit. Aussi, revenez au message, mes amis, le temps du soir est arrivé. Oh, comme je l'aime, mon Seigneur. Pas vous? Combien parmi vous ont-ils compris maintenant les 70 semaines de Daniel et la 70e en particulier? Que ceux qui ont compris disent Amen. L'assemblée répond Amen, nom de l'éditeur. Que Dieu soit loué. Et maintenant, quelle est la nouvelle cité ou chose à examiner? Ce seront les 7 sceaux. Nous commencerons cela quand le Seigneur le permettra. Quand cela sera-t-il? Je l'ignore. Aussitôt qu'il le désirera, aussitôt nous commencerons. Et cette étude nécessitera de longues et nombreuses réunions, car il nous faudra examiner l'Apocalypse au chapitre 6 jusqu'au chapitre 19 pour découvrir ces 7 sceaux. Maintenant, durant que la bande enregistrée est là et qu'elle tourne toujours, je tiens à vous mettre en garde afin qu'il n'y ait aucune confusion possible. Je n'ai jamais dit que Jésus viendra en 1977. Je n'ai jamais dit cela. Jésus peut venir aujourd'hui. Ce que j'ai dit et ce que je confirme, c'est qu'entre 1933 et 1977, les 7 événements que j'eus en vision en 1933 se dérouleront durant ce laps de temps et à ce jour, 5 ont déjà eu lieu. Et je pense qu'avec les bombes atomiques que nous possédons déjà, avez-vous entendu ce que notre président vient de dire? Qu'il veut faire un exemple, ce qui signifierait une autre guerre. Cuba est à notre porte. Pourquoi faire un exemple pour cela? Oh, ce serait un non-sens, voyez-vous? Oh, mes frères, nous sommes juste à la fin. Cela viendra, comme Dieu l'a dit, de la façon qu'il a indiqué. Aussi, pourquoi prendre l'initiative? Contentons-nous de lire ce qu'il a dit. Marchons droit, tenons-nous prêts pour cela, et que cela vienne alors. Nous attendons cela. Nous guettons l'arrivée de cet heureux jour du millénium, quand notre Seigneur béni viendra enlever son épouse qui l'attend. Oh, la terre gémit et soupire après ce jour de douce libération, quand notre Sauveur reviendra sur la terre. Oh, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oui, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oh, Satan sera enchaîné pendant 1000 ans, alors nous n'aurons plus de tentateurs après le retour de Jésus sur la terre. Tous ceux qui sont prêts, levez vos mains. Oh, oh, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Levons-nous et serrez-vous les mains les uns les autres. Notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oh, Satan sera lié pendant 1000 ans. Alors nous n'aurons plus de tentateurs après le retour de Jésus sur la terre. Oh, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oui, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oh, Satan sera lié pour 1000 ans. Alors nous n'aurons plus de tentateurs après le retour de Jésus sur la terre. Le retour de Jésus sera la réponse à notre tristesse et à nos pleurs, car la connaissance du Seigneur remplira la terre, la mer et le ciel, et Dieu enlèvera toutes les maladies. Il assèchera les larmes de souffrance après le retour de Jésus sur la terre. Oh, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oui, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oh, Satan sera lié pour 1000 ans. Alors nous n'aurons plus de tentateurs après le retour de Jésus sur la terre. Oh, ne vous sentez-vous pas bien? Pensez, mes frères, ceci c'est la Pentecôte, l'adoration. Frappez des mains en chantant. Pentecôtistes, chacun de vous, essayez de vous détacher, libérez-vous de toutes ces anciennes formalités méthodistes. Venez à nous et chantons. Oh, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Oui, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Satan sera lié pour 1000 ans. Alors nous n'aurons plus de tentateurs après le retour de Jésus sur la terre. Oh, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. C'est la Bible qui le dit. Oui, notre Seigneur revient de nouveau sur la terre. Satan sera lié pour 1000 ans. Alors nous n'aurons plus de tentateurs après le retour de Jésus sur la terre. L'aimez-vous? Oh, maintenant, levons les mains vers lui. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Il a acheté mon salut sur l'arbre du calvaire. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Il a acquis mon salut sur l'arbre du calvaire.